There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Un petit coucou à ceux qui profitent du pont avec ce beau soleil. Et puis un énorme coucou évidemment à Sonia Mabrouk aussi avec cette magnifique annonce très émouvante hier. Toutes mes félicitations en direct, ma chère Sonia. J'essaierai de garder au mieux la maison Midi News durant ton absence. 12h-14h en attendant, c'est Midi News Week-end. Vous connaissez le rendez-vous, 2 heures d'info non-stop avec des reportages, avec des témoignages et évidemment des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le programme de notre première heure. À la une, on va beaucoup parler, oui, de l'Eurovision, hélas, pas sur l'aspect artistique et concours, hélas, mais sur l'aspect polémique. Israël s'est qualifié pour la finale de demain, c'est important de le dire, de le souligner, mais la polémique enfle. Des milliers de personnes ont manifesté contre sa participation à ce concours en raison de la guerre à Gaza. En France, les filles est encore monté au créneau. Ce sera l'un de nos gros sujets dans Midi News The Weekend. L'autre gros sujet du jour, ce sont ces deux policiers grièvement blessés par balle cette nuit dans un commissariat du 13e arrondissement. On sera sur place avec Marine Sabourin et Charles Baget. Célia Barotte, notre spécialiste police-justice, sera avec nous sur ce plateau. Et puis on évoquera aussi l'agression d'un couple à Nice. Ce couple a juste osé demander, imaginez, du calme à des jeunes qui squattaient la cage d'escalier. La situation a dégénéré rapidement. On sera en direct avec ce couple qui nous racontera tout. Voilà pour votre menu. Le reste de l'info, c'est avec Somaya Labidi que je salue. Et ça me fait très plaisir, ma chère Somaya, de vous retrouver. Sachez-le.
Plaisir partagé. Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, et c'est l'un de vos thèmes de débat dans Midi News, deux policiers grièvement blessés par balle dans un commissariat du 13e arrondissement après avoir interpellé un homme pour des coups de cutter sur une femme. Retour sur les faits avec ce sujet signé Maxime Leguet.
C'est aux alentours de 22h30 hier soir que le drame a eu lieu. Alors qu'une équipe de police a interpellé un individu, auteur d'une agression au cutter d'une femme, les policiers prennent en charge l'agresseur dans ce commissariat du 13e arrondissement de Paris. Une fois à l'intérieur des locaux, ce dernier subtilise l'arme d'un des fonctionnaires et tire sur les agents de police.
Nous avons donc deux fonctionnaires de police qui ont été blessés gravement, qui ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris. D'abord par leurs collègues, dont je veux saluer évidemment le courage, et par les sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris immédiatement en charge nos deux fonctionnaires de police qui sont gravement blessés et qui ont été évacués immédiatement vers les hôpitaux.
Le pronostic vital de l'un des policiers est engagé. L'agresseur a également été blessé par un tir de riposte au thorax et conduit à l'hôpital. Sur place, un des témoins raconte le vent de panique qui a gagné le quartier.
Ça courait partout en fait. Ça courait partout. C'est facile, ça courait partout. Nous, au début, on croyait que c'était le feu. Parce qu'on voit deux voitures de pompiers arriver. On croyait que c'était le feu, mais en fin de compte, non. On a vu le SAMU arriver, enfin deux voitures, je crois. Une ou deux voitures de SAMU. Ils sont tous arrêtés devant le commissariat.
Plusieurs enquêtes ont été ouvertes à ce stade, dont l'une pour tentative de meurtre sur la femme victime de l'agression à l'arme blanche. Une autre pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Cette bonne nouvelle à présent pour les automobilistes franciliens, le tronçon de la 13 entre Vaucresson et Paris, fermé depuis le 19 avril dernier à cause de la découverte de fissures, va partiellement rouvrir, mais sur une voie et uniquement pour les véhicules légers dans le sens Provence-Paris dès cet après-midi. 65 personnes touchées par l'épidémie de choléra à Mayotte, dont une enfant de 3 ans morte ce mercredi, annonce faite par le ministre chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, en déplacement dans l'archipel et qui précise que 3700 personnes ont été vaccinées. Et puis vous l'avez sûrement remarqué depuis quelques semaines, le prix des produits alimentaires repart à la hausse. Alors pourquoi une telle flambée des prix? Élément de réponse avec ce reportage signé Maxime Lavandier.
À la sortie des supermarchés, vous êtes nombreux à constater une hausse de prix sur vos tickets de caisse.
On ne connaît même plus les prix des produits. Il y a des produits qui coûtaient 50 centimes, maintenant ils sont à 1,30 €.
Et certains produits sont plus impactés que d'autres.
Surtout les boissons, mais après aussi, par exemple, genre jambon.
Le fromage, ça a monté. Et les fruits, ça a monté. Les légumes qui coûtaient 1 euro et qui, aujourd'hui, ça monte à 2,99 €.
Une augmentation qui oblige ces consommateurs à modifier leurs habitudes.
On fait plusieurs magasins. Genre, si dans un magasin, un tel produit est moins cher, on va là-bas, vice-versa.
Acheter beaucoup plus de la sous-marque.
Avant, je faisais facilement des courses pour une semaine. Maintenant, je les fais plus pour 2-3 jours.
Comme l'explique l'économiste Marc Toiti, le prix des produits alimentaires ne reviendra pas à celui connu en 2021.
Quand on nous dit, oui, l'inflation se stabilise, voire elle baisse, c'est une arnaque. Parce que l'inflation qui baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est-à-dire que les prix augmentent moins vite, ce qu'on appelle la désinflation. Et donc les prix, malheureusement, continuent d'augmenter.
Selon l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% entre mars et avril.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi, Thierry.
Et on fera un nouveau tour de l'information dans 15 minutes à peu près, Somaya. Allez, à tout à l'heure. C'est parti, Midi News Weekend. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce vendredi des fidèles. Vous les connaissez par cœur. Naïma Mfadel, essayiste. Bonjour, ma chère Naïma. Les vacances ont été bonnes ?
Très bonnes, merci.
Michel Taube, fidèle également de l'émission. Comptez-vous, Michel ?
Bonjour, bonjour à vous. Très bien.
Et Joseph Touvenel, journaliste également et directeur de rédaction Capital Social, fidèle.
Bonjour Thierry, fidèle. Et nous avons tenu, malgré votre absence dans la pluie et le brouillard, vous êtes revenu, le soleil est là.
C'est voilà, eh bien, c'est gentil, j'aime ce petit côté poète chez vous. Et j'accueille beaucoup de plaisir, il y a longtemps que je n'avais pas vu Mathieu avec d'habitude, je vous vois très tôt avec
très
notre
tôt,
ami
Michel.
Anthony,
exactement.
Secrétaire général de Le Millénaire, soyez le bienvenu.
Merci.
Voilà, on va commencer, si vous le voulez bien. En évoquant ce qui se passe autour du concours de l'Eurovision, un concours, vous le savez, hélas, sous très haute tension en Suède. Vous en connaissez la raison. Certains refusent qu'Israël participe à ce concours suite à la situation à Gaza. On aurait dû et on devrait parler que de musique, que de chansons. C'est hélas pas le cas. On voit tout ça avec Marine Sabourin et on ouvre le débat, évidemment, ensemble, juste après.
Ils étaient environ 12 000 à manifester contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Des drapeaux israéliens piétinés, des pancartes anti-Israël et des slogans appelant au boycott de l'État hébreu. Parmi les manifestants pro-palestiniens, la jeune militante Greta Thunberg. Des mobilisations qui obligent la délégation israélienne à prendre des mesures radicales pour protéger sa chanteuse. Eden Golan, 20 ans, ne peut plus sortir de sa chambre si ce n'est pour répéter. Elle est toujours accompagnée de plusieurs gardes du corps et n'a pas participé aux divers événements autour de la compétition. Selon les médias israéliens, il s'agit du dispositif de protection le plus important pour l'État hébreu depuis 1974, après la guerre du Kippour. La chanteuse Eden Golan espère que la finale prévue demain se déroulera dans les meilleures conditions.
Je pense que nous sommes tous ici pour une seule raison. Et l'EBU prend toutes les précautions de sécurité pour que ce soit un lieu sûr et uni pour tout le monde. Donc je pense que tout le monde est en sécurité et nous ne viendrons ici pour aucune autre raison.
Une nouvelle manifestation contre la participation de la chanteuse israélienne est prévue demain.
Et le plus important, évidemment, c'est important de le souligner, c'est que la chanteuse israélienne Eden Golan s'est qualifiée hier soir pour la finale, finale qui aura lieu demain soir. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'écouter, et je vous donne la parole juste après Michel Taube, on va écouter Eden Golan. Ça nous fait du bien aussi dans cette actualité ô combien anxiogène et difficile. C'est vrai qu'elle est belle cette chanson et quand on parle d'Eurovision, on aimerait pouvoir parler en 2024 de musique et hélas, on ne parle pas de musique. Cette chanson d'ailleurs, je crois que le texte était modifié 2 ou 3 fois, hein, Michel, hein, pour
oui,
essayer
de
pouvoir...
Voilà. Parce que dans une première version, elle évoquait ce crime contre l'humanité et cette déclaration de guerre du 7 octobre dernier. Et c'est bien triste. Après, je vais vous dire, l'essentiel c'est qu'elle s'est qualifiée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a bénéficié des votes populaires. Donc vous avez des Européens, pas dizaines de milliers, centaines de milliers, des millions qui ont voté pour elle. Pour moi, c'est l'essentiel. Et les censeurs professionnels que sont les Greta Thunberg, dont je me demande ce qu'elle fait ici, alors qu'elle est censée être l'égérie de la cause du climat, sans quoi d'ailleurs...
Les causes sont larges.
Oui, mais selon quoi...
C'est grand écart.
Sans quoi elle nuit à sa cause climatique, à l'origine plutôt intéressante. Mais là, elle mélange tout, effectivement, dans un wokisme intégral. Mais l'essentiel, c'est que cette compétitrice a réussi à passer en finale. Et peut-être qu'il va y avoir une très bonne surprise et en finale.
Oui, peut-être. Attention, il y a notre candidat, Slimane. Hein. On l'écoutera tout à l'heure également.
Mais c'est vrai qu'on se partager les deux premières places, peut-être.
Allez, ça serait... on prend le pari. On en parle demain, si vous voulez. Absolument. Ou plutôt dimanche. Naïma M. Fadel.
Non, mais ce que je rajouterais, c'est que c'est terrifiant ce qui se passe, parce que qu'est-ce que ça nous dit? Rappelons que c'est une chanson, un hommage aux personnes qui ont été massacrées lors du 7 octobre, lors d'une fête pour la paix. Rappelons que sur la frontière avec Gaza, vous aviez des kibbutz qui étaient majoritairement de gauche, qui œuvraient pour la paix. Donc ce que ça nous dit aussi, c'est que ces personnes-là, ces groupuscules qui aujourd'hui veulent exclure cette chanteuse israélienne qui, à cause de leurs manifestations, ont fait qu'il y a des menaces extrêmement graves contre elle, et tout ce déploiement aussi de forces de l'ordre, cette sécurisation extrême, ce que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, ces groupuscules haineux, ces faiseurs de haine, aujourd'hui, cible une chanteuse qui chante encore une fois en hommage. Imaginez que face aux attentats que nous avons eus dans notre pays, aux attentats terroristes, nous ayons eu des réactions de cette ampleur. Mmh. Vous imaginez? Il faut nommer les choses, mal nommer les choses, comme disait Camus, ça en rajoutait au malheur du monde. Mmh. Donc c'est ça que moi je voudrais aujourd'hui souligner. Et c'est ça qui est gravissime aujourd'hui.
Joseph.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au départ, l'Eurovision avait affirmé pour sa création la volonté de créer des liens indissolubles entre des gens de pays différents.
Et là, c'est gagné.
Et là, une petite minorité, mais une minorité agissante, violente, de plus en plus nombreuse, par la violence, veut retirer le plaisir, la joie, le fait qu'on ne va pas faire de politique, on va écouter des gens qui chantent, on va apprécier plus ou moins, etc. C'est exactement aller à l'encontre de l'Eurovision. Mais c'est aussi aller à l'encontre de ce qui nous rassemble. Moi, je vois des concerts où on peut aller, on va être à côté de gens qui ne partagent pas forcément les mêmes émissions. Et on s'en moque.
Mais on s'en moque totalement. Vous avez raison de le dire.
Ce que nous rappelle, ce qui se passe à Munich, ce que me rappelle en période de Jeux Olympiques, c'est Munich. C'est Munich avec l'assassinat des athlètes israéliens. Mais là, ils sont prêts à assassiner une jeune fille de 20 ans qui chante. C'est méfions-nous, parce qu'on voit ça à Malmö, on voit ça plus modestement dans nos rues, mais il y a 3 jours, je suis passé place de la République, il y avait une manip de ce type. J'ai essayé de discuter. Impossible.
Ah non, c'est impossible.
Impossible.
Non, il n'y a pas de dialogue possible.
Une haine, une méchanceté et une couche de bêtises. Mm-hmm. J'en veux particulièrement aux grands manipulateurs qui sont derrière.
Oui, on en parlera en deuxième partie, je vois de qui vous voulez parler, mais on en parlera en deuxième partie, évidemment, de ces manipulateurs, hein, c'est votre mot, évidemment, Joseph Tounel.
Grand manipulateur.
Grand manipulateur, et vous l'assumez pleinement, je le sais.
Ou petit marionnettiste.
C'est au choix. On en parlera tout à l'heure. Mathieu.
Oui, effectivement, tout ça peut nous conduire à ce que justement vous avez rappelé, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Munich de 1972, avec l'assassinat par l'OLP à l'époque de 11 athlètes israéliens et de la délégation israélienne. Et donc nous, en tant que Français qui organisons les Jeux Olympiques, il va falloir prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir justement protéger la délégation des athlètes israéliens. Ensuite, après, s'agissant de l'Eurovision plus précisément, l'Eurovision, c'était normalement censé faire un pont entre Israël et une partie du Caucase et les pays européens pour permettre, notamment pour ce qui est Israël, de pouvoir participer à une compétition artistique et purement artistique et musicale avec des États qui ne lui veulent pas du mal, parce qu'Israël ne pourrait pas participer à un Eurovision version Moyen-Orient, parce que justement, historiquement, Israël et les Juifs en terre de Palestine sont détestés par une partie des opinions publiques arabo-musulmanes. C'est pareil pour l'Euro de football, c'est-à-dire qu'Israël participe à l'Euro alors qu'elle ne pourrait pas participer à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Asie ou à la Coupe des pays du Moyen-Orient, parce que justement, il y a ces pays.
Vous imaginez dans quel monde on vit aujourd'hui?
Exactement.
Quel que soit l'événement, qu'il soit culturel, qu'il soit sportif, c'est ça qui est terrible.
Mais par rapport à ce que vient de dire Mathieu, et je le remercie d'avoir souligné ce qui s'est passé Lors des JO de Munich en 72, l'OLP avait effectivement commis un acte terroriste contre les athlètes. Mais rappelons-nous aussi qu'après, il y a eu les accords d'Oslo. Il y a eu la paix des braves. Il y a eu ces accords entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, qui est l'autorité, enfin le représentant historique de la cause palestinienne, et que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le groupuscule Hamas qui est un groupe terroriste. C'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça que ce qui me gêne, moi, c'est qu'on fait une confusion entre la cause palestinienne, qui aujourd'hui est instrumentalisée, et l'acte terroriste. Ce n'est pas la même chose. Mmh. On condamne l'acte terroriste et on soutient évidemment la cause palestinienne, et notamment les accords d'Oslo qui permettaient deux États en paix.
Mmh. Michel.
Oui, il y a une idée aussi qui me paraît très importante. C'est qu'Israël fait partie de l'Eurovision. Israël fait partie de l'Union européenne de radio-télévision, qui organise en fait cette manifestation. Et il y a aussi l'idée, qui est à mon avis contestée par beaucoup et qui est insupportable, que Israël ne serait pas un pays européen ou occidental. Et c'est ça aussi qui, à mon avis, se joue. Parce que Israël, si Israël participe à l'Eurovision, c'est parce qu'il y a des valeurs communes avec les pays européens. Parce qu'il y a un amour de la musique et de la chanson. Ce qui n'est pas le cas dans la doctrine du Hamas. Parce que je rappelle que dans la doctrine du Hamas, la musique, c'est interdit par certaines prescriptions coraniques mal interprétées. Et donc, effectivement, ce qui se joue là aussi, c'est un enjeu civilisationnel qui est vraiment très très important. Et donc, au-delà de la simple chanson, c'est un événement également politique qui est en train de se jouer. Et il faut tenir bon, il ne faut pas céder aux pressions. Il faut aller, et j'espère encore une fois que cette chanteuse pourra.
Mais oui, les débats que l'on a, alors qu'on devrait parler musique, etc. Et on en est très très loin, malheureusement. Et cette, elle a une vingtaine d'années, cette jeune chanteuse.
Permettez-moi juste, cher Thierry, de nuancer un peu les propos de Michel. Je pense que la problématique majeure, c'est aujourd'hui effectivement que Israël puisse s'inscrire complètement dans le Proche-Orient. Et je pense que s'il y a une paix, si les accords d'Oslo avaient été appliqués, ils seraient inscrits, ils auraient participé notamment. Il y a des concours, genre concours d'Eurovision, comme la Star, enfin comme Star Academy, des choses comme ça, qui regroupent l'ensemble des pays du Proche-Orient. Et ça se passe très bien. Il ne faut pas toujours mettre en avant l'élément religieux, parce que sinon, on fausse tout.
Allez, on fausse tout. Allez, on poursuit le débat. On va faire un tour du monde de l'actualité avec Somaïa Labidi. Et on poursuit le débat sur cette Eurovision et cette polémique, évidemment. Somaïa.
À la une de l'actualité, Israël multiplie les frappes dans la bande de Gaza alors que les pourparlers au Caire n'ont rien donné. De son côté, le Hamas estime, je cite, que la balle est entièrement dans le camp d'Israël quand l'Égypte exhorte les deux parties à faire preuve de flexibilité. Deux policiers grièvement blessés par balle après avoir interpellé un homme pour des coups de cutter sur une femme. L'individu a dérobé l'arme de service d'un des fonctionnaires et a ouvert le feu dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris hier soir peu avant 22h30. Et puis le Lampedusa de l'océan Indien, ce sont les mots de François-Xavier Bellamy pour qualifier la situation à Mayotte. En déplacement sur l'archipel, sur les thèmes de la santé et de l'immigration, la tête de liste LR aux élections européennes propose l'intervention systématique de Frontex pour faire face à la pression migratoire que subit le département français.
Merci Somaïa. On vous retrouve dans 15 minutes et on continue le débat sur cette polémique autour de l'Eurovision. Et l'important, je le disais pour commencer cette émission, c'est qu'Israël s'est qualifié pour la finale et ça, c'est important de le dire et de le redire. Écoutez la réaction du Premier ministre israélien justement suite à cette qualification de sa chanteuse.
Eden, je veux te souhaiter bonne chance. Tu sais quoi? Tu as déjà gagné. Car non seulement tu participes fièrement et de manière impressionnante à l'Eurovision, mais tu affrontes avec succès une horrible vague d'antisémitisme. Tu t'y opposes et tu représentes l'État d'Israël avec beaucoup d'honneur. Alors sois béni et sache que lorsqu'ils te hurleront, nous te crierons Oura.
Petite réaction, Joseph, sur la... Et je vous donne la parole juste après, mon cher...
Ce qui est rassurant, c'est la réaction du vote populaire. Parce que si elle est là, c'est parce que le vote populaire a été pour elle. Ce qui est beaucoup moins rassurant, quand on a vu les images de Malmö. Imaginez, moi, dans mon enfance, j'avais, pas très loin de la maison, une boucherie cachère. Avec le gars, il avait sa camionnette. Et c'était établissement Lévy, boucherie. Aujourd'hui, est-ce qu'une camionnette... Alors, à Malmö, mais il se faisait incendier, écharper avec sa camionnette. Et même dans les rues françaises aujourd'hui, je me demande
si, pourrait circuler une camionnette avec une indication d'un nom à consonance juive. Voilà où on en est. Mais le peuple est derrière. Il a voté. Alors moi, je n'ai pas écouté. Je ne peux pas dire si c'était bien ou pas bien. J'ai entendu un peu la chanson. Elle est effectivement plaisante. Mais ce qui est bien, cette réaction massive et populaire de soutenir cette jeune fille.
Michel, vous souhaitiez réagir au...
Oui, à ce que disait Naïma.
C'est ce que disait Naïma.
Naïma laissait entendre qu'on pourrait ne pas être d'accord. Mais je crois qu'on est tout à fait d'accord. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que Israël participe à l'Eurovision. Alors que le Hamas ne voudrait certainement pas participer à un événement musical, parce que je le répète, le Hamas, oui. Pour des raisons religieuses, il s'oppose au principe même de la musique. Et je redis, la dimension culturelle, on est au cœur du sujet. Mais il y a des pays autres que Israël qui pourraient ou qui voudraient ou qui ont même participé à l'Eurovision. Le Maroc, en 1980, à participer au concours de l'Eurovision. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'ai soutenu pour que le Maroc même participe régulièrement au concours de l'Eurovision. Pourquoi ? Parce qu'on a des valeurs communes. Parce qu'on a un attachement commun, une civilisation ouverte, où la danse, la musique ont leur place. Et donc, c'est pas Israël contre les pays arabes, c'est Israël contre le Hamas. Et c'est ça qui se joue aussi dans cette querelle de l'Eurovision. Et je le répète, Greta Thunberg et les autres se trompent de cible. Ils se trompent de cible. Plutôt que s'en prendre à Israël, qu'ils s'en prennent au Hamas. Et là, on sera peut-être d'accord. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'elle revendique lorsqu'elle se rend en Suède.
On évoquera cet aspect très politique que vous évoquez déjà, Michel, en deuxième partie, avec ce qui se passe aussi chez nous, avec les propos tenus par Émeric Caron aussi, et les filles qui mettent un peu de braise sur la situation. Mais on en parlera en deuxième partie, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on reste sur ce contexte, un petit peu de sécurité, etc. etc. Naïma.
Non, mais je voudrais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est important. Quand on qualifie les choses, de bien faire le distinguo, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous met mal et qui met mal aussi nos compatriotes et la cohésion nationale, c'est que cette confusion que certains, bon, on l'abordera tout à l'heure, veulent mettre dans l'esprit de nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, et bien spécifier encore une fois que beaucoup de pays arabes et des pays très importants, les pays du Golfe et notamment le Maroc que vous avez cité, ont quand même commencé à signer les accords d'Abraham, ont été pour les accords d'Oslo. Et on peut regretter, on va peut-être l'aborder tout à l'heure, Thierry, que ces accords d'Oslo, justement, Netanyahou se soit assis dessus. Parce que avec son aile au niveau des suprématistes, des colons juifs, hein, à qui il a permis aussi cette colonisation en Cisjordanie, et du coup il a laissé aussi entre guillemets faire le Hamas. En tout cas, le Hamas en a profité. Donc on peut le regretter parce que tout le monde rêvait que les accords d'Oslo soient appliqués. Et moi-même qui ai été, quand les accords d'Abraham ont été signés et qu'on a commencé à penser aussi des accords commerciaux, etc., moi j'étais au Maroc à cette période-là, mais vous ne pouvez pas imaginer la liesse qu'il y avait. Et moi j'ai vu des juifs marocains qui vivaient en Israël, qui sont partis en Israël, revenir dans le pays de leurs ancêtres, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je ne veux surtout pas qu'encore une fois on sème cette confusion et que certains, non je ne parle pas de vous, certains, notamment ces élus de la République, mettent, fassent croire qu'il y a une opposition musulmane contre juifs. Mm-hmm. Il ne faut surtout pas qu'on se laisse aller sur ce chemin, bien qu'il y ait bien sûr une minorité, comme disait tout à l'heure Joseph, agissante.
Mathieu.
Il y a deux points qui sont à souligner dans le sujet. C'est d'une part, effectivement, tant qu'il y a le Hamas, de toute façon, les accords d'Oslo ne pourront pas être mis en œuvre. Et donc, en fait, il n'y aura pas de solution à deux États tant qu'il y aura le Hamas. Parce qu'on ne peut pas demander aux Israéliens de vivre à côté de
Netanyahou. Il n'en veut pas, Netanyahou.
Effectivement. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, après, le deuxième point sur le concours de l'Eurovision, pour répondre à votre sujet, c'est que Israël, aujourd'hui, le 7 octobre, a vécu ce que nous, on a vécu à travers le Bataclan, ou ce qu'ont vécu les États-Unis à travers le 11 septembre. Or, quand on a ce type d'attaque massive sur la population avec des crimes contre l'humanité abominables, les chefs d'État qui ont pris qui ont subi ça et qui ont subi ça avec leur population demandent aussi quand même un soutien de la communauté internationale pour pouvoir justement passer cette épreuve-là, une épreuve qui est très difficile. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'Israël n'est plus en capacité, ne peut plus commémorer au niveau international cet acte du 7 octobre à cause, justement, d'une partie des opinions publiques occidentales et dans le monde arabo-musulman qui, justement, prennent en otage le conflit au Proche-Orient à des fins politiques.
Allez, pour être complet sur cette première partie, je voulais qu'on écoute Gilles Kepel, qui était invité de notre ami Romain Desarbres ce matin dans la grande interview. C'est toujours intéressant d'écouter Gilles Kepel et d'avoir son regard. Et je vous donne la parole juste après, Joseph.
Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans les universités, d'une certaine manière, parce que là, c'est dans le domaine de la chanson. Ça concerne donc la jeunesse. Et on considère que quelqu'un, parce que cette jeune femme est de nationalité israélienne, que je sache, elle n'a pas particulièrement fait de déclarations favorables à la politique de Bibi Netanyahou, nécessairement doit être stigmatisée, interdite, rejetée. Et évidemment, ça pose un grand nombre de problèmes sur la conception qu'on se fait de la démocratie dans notre société.
Il a raison, Gilles Kepel. Elle n'y est pour rien, cette chanteuse. Mais pour rien. Elle n'a pas pris position. Il a raison de le rappeler.
Il a entièrement raison.
Chanson.
Et quand on regarde les images de Malmö, ça nous rappelle que la culture, normalement, c'est un vecteur de paix. C'est la culture, c'est un vecteur de dialogue entre les uns entre les autres. Et là, il y a un camp retranché. Pour chanter, on est obligé de faire un camp retranché. Voilà où nous en sommes. Une des causes, c'est la haine. Mais c'est cette cinquième colonne que nous avons maintenant dans tous les pays d'Europe et ailleurs. Il faut en avoir conscience. Il y a une cinquième colonne. Je ne peux pas en estimer le nombre. Mais quand on est obligé de faire encore une fois un camp retranché, quand on voit pour les Jeux Olympiques en France les mesures de sécurité qui sont prises à juste titre, notamment le métro qui va être fermé avec les risques d'attentats. Il faut que les uns et les autres, on se réveille. C'est notre avenir collectif qui est en cause. Et on l'a vu, Mathieu le disait, avec les attentats. Mais vraiment, il y a un problème en Europe de sécurité avec cette cinquième colonne. Et Gilles Kepel a entièrement raison. La culture, c'est la culture. Et on ne devrait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui.
Allez, on va marquer une première pause dans ce Mini News Weekend. On reviendra sur l'Eurovision en deuxième partie autour de 13h. On parlera de l'aspect plus politique et évidemment des réactions politiques en France avec Émeric Caron. Et dans quelques instants, on va vous parler de l'autre fait d'actualité. C'est deux policiers qui ont été grièvement blessés dans un commissariat du 13e arrondissement. On sera sur place évidemment avec nos équipes. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il est 12h30, merci de nous accueillir chez vous. Bon appétit si vous êtes à table, évidemment. On fait un tour de l'info avec Somaïa Labidi, que je vous salue.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Israël en finale de l'Eurovision, malgré les critiques et les huées contre sa candidate. La participation de l'État hébreu à la compétition suscite une vague de contestation à cause de la guerre à Gaza. Bonne nouvelle pour les automobilistes franciliens, le tronçon de la 13 entre Vaucresson et Paris, fermé depuis le 19 avril à cause de la découverte de fissures, va partiellement rouvrir, mais sur une voie et uniquement pour les véhicules légers dans le sens province-Paris, dès cet après-midi. Et puis ces images impressionnantes du Brésil, un cheval piégé sur le toit d'une maison à cause des inondations a été sauvé par les secouristes. Baptisé Caramelo par les habitants, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux.
Image combien spectaculaire, Somaïa.
Il va très bien, je vous rassure.
Bah, ça, c'est le plus important. On est content de le savoir. Merci, Somaïa. On vous retrouve dans 15 minutes. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagne en ce vendredi. Naïm Mfadel, Joseph Tounel, Michel Taubé et Mathieu Hoc. Et nous a rejoint notre spécialiste de la justice. Bonjour, ma chère Célia Barotte. On va commencer avec vous dans quelques instants, puisque l'autre gros titre de cette journée de ce vendredi, ce sont ces deux policiers qui ont été grièvement blessés par balle cette nuit dans un commissariat du 13e arrondissement à Paris. Un individu qui avait été interpellé pour l'agression ultra-violente d'une femme s'est emparé de l'arme d'un agent et a carrément ouvert le feu. Le pronostic vital d'un policier est engagé. On sera sur place dans quelques instants. Et on voit le sujet d'abord de Maxime Leguet.
C'est aux alentours de 22h30 hier soir que le drame a eu lieu. Alors qu'une équipe de police a interpellé un individu auteur d'une agression au cutter d'une femme, les policiers prennent en charge l'agresseur dans ce commissariat du 13e arrondissement de Paris. Une fois à l'intérieur des locaux, ce dernier subtilise l'arme d'un des fonctionnaires et tire sur les agents de police.
Nous avons donc deux fonctionnaires de police qui ont été blessés gravement, qui ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, d'abord par leurs collègues, dont je veux saluer évidemment le courage, et par les sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris immédiatement en charge nos deux fonctionnaires de police qui sont gravement blessés, qui ont été évacués immédiatement vers les hôpitaux.
Le pronostic vital de l'un des policiers est engagé. L'agresseur a également été blessé par un tir de riposte au thorax et conduit à l'hôpital. Sur place, un des témoins raconte le vent de panique qui a gagné le quartier.
Ça courait partout en fait. Ça courait partout. C'est facile, ça courait partout. Nous, au début, on croyait que c'était le feu. Parce qu'on voit deux voitures de pompiers arriver. On croyait que c'était le feu. Mais en fin de compte, non. On a vu le SAMU arriver. Enfin, deux voitures, je crois. Une ou deux voitures de SAMU. Et ils sont tous arrêtés devant le commissariat.
Plusieurs enquêtes ont été ouvertes à ce stade, dont l'une pour tentative de meurtre sur la femme victime de l'agression à l'arme blanche. Une autre pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
On va prendre tout de suite la direction du commissariat du 13e arrondissement. On trouve notre équipe, Marine Sabourin et Charles Baget. Bonjour Marine Sabourin, quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez, Marine ?
Eh bien d'abord, Thierry, vous dire que c'est le choc. Ici, on a appris aux passants, puisqu'ils ont vu tous ces journalistes devant ce commissariat. Alors, vous l'avez entendu dans le sujet qui précède ce duplex. Eh bien, il était 22h30 quand un individu a été interpellé au domicile d'une jeune femme qu'il était en train d'agresser au cutter. Il a été menotté et placé donc en garde à vue dans le commissariat qui se trouve juste derrière moi. Et donc, c'est au moment, peut-être, eh bien, c'est une des hypothèses, c'est au moment où les policiers lui ont enlevé les menottes, eh bien que l'individu aurait pu subtiliser cette arme et alors aurait tiré sur ses policiers. L'un d'eux a un pronostic vital engagé, vous l'avez dit, pronostic vital engagé, il est toujours sous coma artificiel. Son pronostic vital engagé ce matin, évidemment, ici, les policiers sont sous le choc. Ce que l'on sait, eh bien, c'est que l'agresseur est de type asiatique, il a une trentaine d'années, d'ailleurs, tout comme les deux policiers qu'il a visés. Alors, depuis ce matin, on a des syndicats de police qui sont mobilisés pour venir soutenir leurs collègues, le commissariat, qui a d'ailleurs rouvert ses portes ce matin.
Merci beaucoup Marine Sabourin. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Charles Baget depuis le commissariat du 13e arrondissement. Célia Barotte, vous êtes avec nous. A priori, trois enquêtes ont été ouvertes désormais.
Oui, l'une pour tentative de meurtre, une autre pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc là, on parle des policiers. Et puis une troisième, c'est une troisième enquête qui arrive systématiquement lorsque des policiers sont impliqués dans une affaire où il y a un usage de l'arme à feu. Donc une troisième enquête confiée à l'IGPN pour violence volontaire avec arme par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Les investigations vont porter désormais sur les circonstances exactes des faits, sur l'identité aussi de cet homme qui a blessé les policiers, puisqu'il n'avait pas de carte d'identité sur lui au moment des faits. Il a refusé de donner son identité, il s'est présenté comme sous X, ainsi qu'il va falloir déterminer les liens qu'il avait avec cette jeune femme qu'il a violemment agressée. Au départ, on avait parlé de violence conjugale, mais le préfet de police de Paris l'a bien rappelé, ce n'est pas un motif qui pour l'instant est retenu, c'est pour le moment une agression grave sur une femme.
Merci pour toutes ces précisions, Célia. Je vous donne la parole dans quelques instants, puisque nous sommes avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national de l'Unité. C'était important de vous avoir avec nous, Jean-Christophe. Marine Sabourin nous le disait, l'émotion est énorme dans votre corporation, évidemment, et on comprend aisément, Jean-Christophe.
Oui, bonjour. Ben, effectivement, grosse émotion. Et puis, on envoie plein d'ondes positives à nos collègues, à leurs familles. Et surtout, le commissariat du 13e arrondissement a été déjà touché au mois de mars, par la perte d'un de nos collègues de la BAC en mission qui est décédé en service. Donc déjà, ça fait beaucoup pour un même commissariat en quelques mois. On sait que dans notre métier, malheureusement, on n'a pas de routine. La routine chez nous, c'est ce qu'on dit, elle est mortelle. On doit toujours être vigilant, toujours faire attention. Et ça, c'est ce que souvent les gens, des fois, ne comprennent pas quand nous, on prend toutes les précautions nécessaires quand on est avec eux ou quand on fait des contrôles routiers ou autres, parce que en fait, voilà, une vacation, comme on dit, une journée de policier, c'est 12 heures. Et pendant 12 heures, ben, il faut toujours être vigilant et ça prend énormément d'énergie. Et on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'un fou, d'un forcené ou d'une personne qui veut tuer des flics parce qu'il en a l'envie. Voilà. Donc, effectivement, l'enquête est en cours et pour l'instant, nous, on se concentre sur la famille et nos collègues.
Mais ce qu'on a envie de savoir, Jean-Christophe, comment une telle situation a pu se produire, racontez-nous, parce qu'en fait, la personne, si elle était en garde à vue, elle est menottée. Comment les choses peuvent se produire?
Mais quand vous interpellez un individu, bon, déjà qui est plus que violent, puisqu'il y avait une tentative de meurtre avec un cutter, quand les collègues sont intervenus dans l'appartement, ils ont vu une mare de sang devant la porte. Les deux équipes qui sont intervenues sont enceintes des 1-2. C'est les premières infos qu'on a. Il y a une équipe qui a défoncé la porte avec un banc pendant que l'autre passait par le balcon pour essayer de sauver la victime. Donc déjà, vous voyez, on prend tous les risques pour sauver les gens, sauver les victimes. Et pour l'interpellation, on a utilisé un pistolet à impulsion électrique par trois fois, parce que la première fois, ça ne marche pas forcément à 100%. Bref, l'individu est effectivement menotté, ramené au commissariat, et après, dans la procédure, avant de mettre quelqu'un en garde à vue, on doit déjà savoir s'il n'est pas sous l'empire de l'alcool ou de la drogue, et donc on procède à un test d'éthylomètre. Et c'est pendant cette période de test où on démenote l'individu pour qu'il puisse prendre le petit tuyau et souffler dedans l'appareil, qu'il s'est rué sur un de nos collègues pour lui voler son arme. Voilà.
Et j'aurais dû commencer par cela, pardonnez-moi Jean-Christophe, quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez concernant vos deux collègues ?
Alors je prends des pincettes parce qu'effectivement, il y a un collègue qui serait encore en pronostic vital engagé, et un autre qui serait déjà, tant mieux, sorti un peu plus de la zone rouge. Mais on prend effectivement beaucoup de pincettes et nos collègues parisiens sont sur place avec eux, avec les familles et nos collègues qui sont très meurtris. Effectivement, c'est un temps, j'allais dire, familial. Voilà. Seule la femme de notre collègue, il y a Anthony et Ludovic. Donc il faut aussi les nommer des fois. Ces policiers qui risquent leur vie au quotidien, encore une fois, pour sauver des gens.
Jean-Christophe, restez avec nous. On ouvre le débat avec nos grands témoins. Vous connaissez l'émission par cœur, évidemment. Michel Taube, ça vous inspire quoi, ce dramatique fait divers au sein de ce commissariat ?
Beaucoup de tristesse, de la colère également, parce que s'en prendre à des policiers, c'est toujours s'en prendre à tout le pays. Et c'est pas banal de le dire, parce que, encore une fois, on est dans une société ultra-violente dont souvent les premières victimes sont les policiers, les gardiens de la paix, mais aussi les pompiers, mais aussi des anciens. Mmh. Toutes celles et ceux qui représentent l'autorité doivent être respectés. Et après, comme l'a dit M. Couvi, à ceux qui critiquent la police, mmh. mais là, ce sont des policiers qui sont intervenus dans l'exercice de leur fonction, mais en prenant tous les dangers pour pouvoir protéger des concitoyens dont une avait déjà été agressée au cutter. Mmh. Donc tout cela est dans d'une extrême violence. Et ce qui, moi, m'étonne, hein, évidemment, il faudra en savoir plus, mais c'est cette violence subite dont sont capables de plus en plus les personnes et qui font augmenter en plus la prise de risque des policiers. Donc solidarité avec ces deux policiers, Anthony et Loïc. Je pense que c'est important de les nommer.
C'est vrai.
Ce sont des personnes, ce sont des familles qui sont maintenant en grande souffrance et derrière laquelle toute la nation doit être.
Naïma Mfadel.
Mais c'est pour ça que l'État doit affirmer l'autorité de nos policiers. Il ne doit pas laisser qui que ce soit, et notamment des représentants de la République, des députés, se permettre de les insulter et de jeter le discrédit sur eux. Il faut le rappeler encore une fois qu'ils ont pour mission de l'état de droit de nous protéger, de nous sécuriser. Effectivement, il faut une profession où ils risquent chaque jour leur vie pour sauver la nôtre. Et c'est pour ça, encore une fois, il est insupportable, insupportable d'entendre ces représentants de la République, malheureusement, des représentants de la République, on va dire ça comme ça, qui sont censés faire respecter la loi, aujourd'hui jeter le discrédit sur nos policiers, sur nos forces de l'ordre.
Un dernier mot, Jean-Christophe Couvi. Effectivement, le risque zéro n'existe pas dans l'exercice de votre profession et c'est important de le signaler comme ont pu le faire Naïma et Michel Taube.
Ben oui, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit souvent aux citoyens, on leur dit quand on intervient, on ne sait pas qui on a par exemple sur un contrôle routier, on ne sait pas qui on a derrière le volant, donc on n'est pas des shérifs, c'est juste qu'on met notre vie en jeu, et donc forcément ça induit d'avoir une procédure de contrôle, d'intervention, voilà, on n'est pas des shérifs, c'est juste que le soir, on a envie de revoir effectivement nos femmes, nos enfants et de retourner le lendemain voir nos collègues au boulot en vie, quoi. Donc notre métier est compliqué, il faut le comprendre, il faut le vivre de l'intérieur. C'est pour ça qu'effectivement, quand on a des détracteurs, où j'entends des fois qui se font plaisir en nous insultant, ben, on leur dit, il y a la réserve opérationnelle qui est ouverte, venez nous donner des conseils et venez vous aussi voir un petit peu comment on travaille. Voilà, donc c'est un métier effectivement qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Il faut toujours être sur vos gardes sans tomber effectivement dans la parano, mais il faut être professionnel. Et là, malheureusement, il n'y a pas 100% on ne peut pas tout prévoir. Et les commissariats aujourd'hui ne sont plus des sanctuaires. On voudrait prendre par exemple plus de stagiaires chez les jeunes qui nous demandent à visiter des commissariats, à venir faire des stages, et on est en train de refuser parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on les mettrait aussi peut-être en danger.
Merci d'avoir accepté de témoigner, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité. Évidemment, on pense à vos collègues et à leur famille très fortement. Joseph.
Moi, je pense un peu comme Neymar l'a dit, à tous ceux qui brament. Tout le monde déteste la police. Il y a des députés qui osent bramer ça, qui dans la rue ne s'offusquent pas d'être en tête de manifestations où tout le monde déteste la police. Là, la jeunesse...
Toujours les mêmes, d'ailleurs.
Hein. Toujours les mêmes.
Toujours les mêmes. Hein.
Et là, la jeunesse de l'affaire, c'est quoi? Ce sont des policiers qui interviennent, qui sauvent certainement une vie, puisqu'ils ont vu du sang sous la porte. Un passe par le balcon, dont risque sa vie. Les autres défoncent une porte. Ils ne savent pas sur qui ils vont tomber, sauf qu'il doit y avoir des cris, du sang. S'ils sont venus, c'est parce qu'on les a avertis. Ils ont risqué leur vie. Et certains se permettent de continuer de dire « Tout le monde déteste la police ». Mais ces gens-là, voilà, on le voit, ils risquent leur vie, ça a été dit. Merci, et puis merci à leur famille, parce qu'ils ont aussi des familles.
Il faut pas oublier, vous avez raison de le rappeler aussi, il ne faut pas oublier les familles.
Des enfants, et certains enfants, aujourd'hui, dans des écoles, n'osent pas dire que leur père est policier ou gendarme. Voilà où nous en sommes. Je pense qu'il devrait y avoir une réaction d'ailleurs plus forte des autorités, notamment de l'éducation nationale, quand ça se produit dans les quartiers. On a quelques exemples précis d'enfants qui cachent le métier de leurs parents quand leurs parents sont policiers ou gendarmes ou militaires.
Célia, je vous donne la parole juste après Mathieu.
Là, ce que l'on voit une nouvelle fois, c'est que la violence envers les policiers s'illustre sur le terrain, elle s'illustre jusque dans le commissariat, elle s'illustre aussi, on va le rappeler, jusque chez eux, à leur domicile, puisqu'il y a eu l'attentat de Magnanville, deux policiers lâchement assassinés par un terroriste. Donc les policiers ne sont plus en sécurité, malheureusement, nulle part, ce sont des cibles. Il faut les protéger. Malheureusement, là, on a l'exemple, le cas, que même au sein de leur commissariat, entourés de leurs collègues, ils sont des cibles au moment d'exercer leur profession.
Et c'est ce que dit Jean-Christophe Houvy, les commissariats ne sont plus des sanctuaires.
Ils sont souvent très vétustes aussi, en termes de locaux. On a affaire souvent à des commissariats qui manquent de moyens, manquent de sécurité, manquent de caméras de vidéosurveillance ou encore de locaux très vétustes pour les garder à vue.
Et les ordinateurs.
Oui, vous avez le signe aussi. Mathieu.
Non, mais effectivement, et puis pour revenir sur le débat qu'on a, il y a des gens qui sont aujourd'hui des élus de la République qui sont protégés par la police et qui vomissent sur la police. Ça, c'est déjà le premier point qui est à souligner. Alors que les policiers pratiquent un métier à risque, ils risquent leur vie, comme vous l'avez tous rappelé, et surtout, ils font face à une société qui est toujours plus ultra-violente. Alors que, comme vous l'avez dit, leurs conditions de travail se sont dégradées. La situation des commissariats, moi, elle me paraît pas nouvelle, puisqu'il y a un rapport de la Cour des comptes en 2021 qui alerte déjà sur la question des commissariats en Ile-de-France et principalement à Paris. Le commissariat du 13e, le commissariat du 15e, du 16e, le commissariat aussi du 17e sont des commissariats qui sont vétustes, qui sont mal sécurisés. Donc effectivement, ce type de drame sont aujourd'hui possibles parce qu'on a une société qui est d'autant plus violente, alimentée par une haine anti-flic par des élus de la République. Et on a aussi des pouvoirs publics, notamment les macronistes qui sont au pouvoir depuis 2017, qui n'ont pas résolu les questions de fond sur la question de la rénovation des commissariats ou de la sécurisation des policiers partout dans leur vie, parce que, comme vous l'avez rappelé, les policiers aujourd'hui, les enfants de policiers sont menacés, leurs familles sont menacées, et c'est un vrai problème pour la société.
Et ça, c'est une triste message. Hein.
Ce commissariat qui avait été d'ailleurs détruit dans un incendie il y a une dizaine d'années, qui a été reconstruit très rapidement. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce quartier, pour connaître un peu le 13e arrondissement de Paris, il faut également bien se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une agression aussi violente, je pense à cette femme qui a été agressée au cutter, ou des policiers, c'est aussi un traumatisme dans un quartier, c'est aussi un traumatisme dans une commune, c'est aussi un traumatisme dans un territoire. Et il y a de plus en plus de faits d'une telle violence qui traumatisent en fait la population et qui laissent des traces dans la vie collective et qui créent en fait de la tension, qui créent de la peur, qui amène, j'imagine, des jeunes femmes à moins sortir. Donc c'est aussi cela qui est en train de se passer. Il y a l'enjeu de soutien à nos policiers, mais il y a aussi les conséquences que ça a dans la vie de la cité.
Allez, on va retrouver Somaïa Ebidine. Nous avons un petit peu de retard, ma chère Somaïa, pardonnez-moi. Et on prendra la direction de Nice, parce qu'on parlera de violence, et on sera en direct avec un couple qui va nous raconter ce qui s'est passé dans le bas de leur immeuble. Vous allez voir, c'est terrible. Et nous sommes bien en 2024, hélas. Somaïa, un tour dans l'info.
À la une de l'actualité, l'humanité retrouvée grâce à l'abolition de l'esclavage. Les mots de Gabriel Attal en déplacement à La Rochelle. La Rochelle, premier port français à se lancer dans la traite esclavagiste entre l'Afrique et les Amériques en 1594. Occasion cette journée d'ériger une statue de Clarisse, une femme qui vivait en servitude dans la ville avant le vote de la première abolition en 1794. 65 personnes touchées par l'épidémie de choléra à Mayotte, dont une enfant de 3 ans morte ce mercredi, annonce faite par le ministre chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, en déplacement dans l'archipel et qui précise que 3700 personnes ont été vaccinées. Et puis Israël multiplie les frappes dans la bande de Gaza alors que les pourparlers au Caire n'ont rien donné. De son côté, le Hamas estime, je cite, que la balle est entièrement dans le camp d'Israël quand l'Égypte exhorte les deux parties à faire preuve de flexibilité.
Merci Somaya. Allez, chose première, chose due, on va prendre la direction de Nice, les amis. Nice, où on va vous parler d'une agression. Un couple a juste fait une remarque, qui a juste osé faire une remarque à des jeunes qui étaient dans la cage de leur escalier. La situation a rapidement dégénéré. Pour savoir précisément ce qui s'est passé, le détail, nous sommes avec Odile Thomas et Franck Aspart. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était important pour moi de vous avoir. Racontez-nous un petit peu les faits, comment les choses se sont déroulées. Et merci à vous deux, en tous les cas.
Merci beaucoup de nous accueillir, c'est très gentil.
La puissance du média peut-être va faire changer les choses. Nous sortions à 17h45 et trois jeunes gens étaient squattés notre entrée d'immeuble avec fumette et boisson. Un des trois était un des responsables du magasin qui leur fournit beaucoup de choses. Et je leur ai demandé pour la xème fois de dégager de là, puisque c'est un espace privé, sachant qu'il y a un banc public à moins de 25 mètres. Hein, donc il n'y a pas un sujet énorme. Le ton est monté parce que, certainement imprégné de substances différentes, un des deux belligérants s'est mis à hausser le ton et insulter mon épouse. Et comme je suis marié et avec le maire qui m'a bien précisé, vous jurez de protéger votre épouse jusqu'à la fin de vos jours. Et j'ai pris cette personne par le callback et je l'ai fait sortir de notre lieu de vie. Et là, je me suis fait étrangler par l'arrière par un deuxième belligérant. Une fois à terre, bon, les coups sont tombés comme la grêle. Ce qui fait que je dois mon salut à un passant qui nous a renforcés, qui s'est interposé, mais nous étions pris à partie par des jeunes qui ont été déjà prévenus par la police municipale pour des faits similaires il y a quelque temps au même endroit. Donc les choses, on a porté plainte, on a fait les choses pour que la mairie ces arrêtés municipaux pour la fermeture de ce type de magasin, ça n'a aucune conséquence. Monsieur Estrosi, j'ai remis le dossier en main propre il y a 4 jours. Il a traité ça un peu par-dessus la tête, comme ça, de dire « Oh, c'est très difficile de sortir ces négoces ». Ce négoce qui vient d'arriver, qui est dès le premier jour, qui ouvre la nuit, nous a apporté que des ennuis. Et il était en dehors des clous par rapport à la loi. Mais il est là, il est encore là. Et maintenant, il détourne des jeunes de 10 ans à 14 ans. Et ça, ce n'est pas possible, parce que la jeunesse, c'est notre avenir. La jeunesse, c'est l'avenir de la France, de notre nation. Et si on leur laisse faire les pas de côté, on ne pourra plus les gérer après. Ça, c'est dangereux.
Restez avec nous, Odile et Franck. On va ouvrir le débat avec nos grands témoins. Et encore merci parce que vous avez eu 8 jours d'ITT, je crois, Franck. Hein.
8 jours d'arrêt de travail parce que l'ITT, malheureusement, il faut prendre rendez-vous et c'est pas avant une dizaine de jours. Donc, bon, je pense que ça va être un peu compliqué là-dessus.
Restez avec nous.
8 jours d'arrêt de travail. Voilà. C'est 8 jours d'arrêt de travail.
Restez avec nous, Joseph, que vous inspire, parce que ça, c'est du concret. Hein. Et on voit, ils ont alerté la mairie de Nice. Il n'y a pas de réponse et je leur poserai la question parce que je crois qu'ils envisagent carrément de déménager.
Joseph. Ce qui me frappe le plus, c'est l'abandon. C'est-à-dire, voilà des gens qui voient une situation, la dénoncent. Cette situation, elle est évidente, elle est constatée avec un point de deal, avec tout ce qui va autour. Ce monsieur le dit très bien, d'ailleurs, avec des jeunes, et ça fait mal de voir des jeunes qui sont en train de perdre leur vie, parce que ça deviendra de jeunes adultes délinquants si on laisse faire. Et il y a un abandon total. Les autorités ne bougent pas, que ce soit du côté de la préfecture, du côté de la commune. Alors que si par malheur, vous restez dans le même quartier en mettant votre voiture sans payer le parkmètre pendant quelques minutes, alors là, ça va tomber. Il y a un sentiment, enfin non, c'est pas un sentiment justement. Il y a une réalité d'abandon qui fait monter la colère. Et faire monter la colère, c'est jamais bon, mais je comprends qu'on soit en colère dans ces situations-là.
Et ça, il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de ce genre d'histoire. Hein.
Absolument. Je pense aussi à cet élu de Saint-Chamond, par exemple, qui pendant des semaines a crié, a crié au secours parce qu'elle était menacée, menacée d'être décapitée. Mmh. Il a fallu que ça sorte dans les médias réellement pour que du côté de la préfecture et du côté du ministère de l'Intérieur, on réagisse enfin.
Et d'ailleurs, c'est ce que disait Franck, hein. Très heureux de participer à notre émission. Moi, je le remercie parce que ce n'est pas facile d'accepter de témoigner et de surcroît.
Mais je me demande justement si c'est pas ça aussi la nouveauté, c'est que de plus en plus de nos concitoyens qui sont agressés osent le dire publiquement à visage découvert, parce qu'il y en a ras-le-bol, parce que trop c'est trop, et parce que comme le dit ce cher monsieur
Franck,
c'est une chronique de la violence ordinaire que la justice par exemple, mais également les parents, mais également l'institution scolaire, et n'en prennent pas la mesure. Combien y a-t-il de milliers, de dizaines de milliers de jeunes défavorablement connus des services de police et qui n'ont aucune condamnation pénale ? C'est-à-dire, non seulement il y a ceux qui sont condamnés pénalement, mais qui ne font jamais des peines de prison, même des peines de prison courtes, comme c'est fait dans certains pays scandinaves, avec une grande efficacité de prévention. Mais là, c'est même pire, c'est que vous en avez beaucoup qui sont défavorablement connus des services de police. Monsieur parlait de la police municipale, c'est-à-dire qui n'arrêtent pas de commettre des larcins, d'embêter tout le monde, de commettre des agressions dites petites, mais qui sont en fait extrêmement graves, et sur lesquelles la justice n'est même pas saisie, ne fait pas son travail. Et donc, ça crée des climats, effectivement, de tension. Et vraiment, je salue ce témoignage qui, en fait, qui dit ce que vivent un très, très grand nombre de Français.
Deux mots rapidement, je voudrais donner une dernière fois la parole à Odile et à Franck.
Je voudrais juste souligner que ça se passe à Nice.
Et oui, à Nice.
Qui s'énorgueillit d'avoir quand même un centre de supervision urbain, d'avoir un maillage en termes de vidéosurveillance. Et donc, c'est ça qui m'étonne. Et puis, il faut rappeler aussi que le maire a des pouvoirs de police. Donc, il peut parfaitement intervenir et faire fermer ce magasin.
Dernier mot, Odile et Franck, je crois que vous avez l'intention de déménager. Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Puis on reste en contact, évidemment, vous allez nous tenir au courant de votre affaire, mais quel est le message que vous avez envie de faire passer? Profitez-en, vous êtes en direct sur CNews.
Alors, déjà, pour leur dire que nous n'avons pas peur, parce que la peur est mauvaise conseillère, parce que si ces gens voient qu'on a peur, on est une cible pour eux. C'est le principe même de l'animalerie. Le requin, il fait peur, donc voilà. Nous, on est honnêtes, on a toujours été honnêtes, on a été élevés dans l'honnêteté, la probité, sans mensonge. On n'a pas à avoir peur d'être ce que l'on est. Ce sont eux qui doivent avoir peur de ce qu'ils sont devenus. Moi, c'est peut-être un langage un petit peu lunaire, que je veux dire.
Mais il est au moins sincère.
C'est le fondement de ma pensée, c'est le fondement de mon éthique. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été franche et jamais été élevée dans le mensonge.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Odile et Franck. Ce que je vous propose, c'est que vous nous teniez au courant, parce que le fait de passer sur notre antenne dans Minus Weekend, peut-être que ce fera bouger les choses. Tenez-nous au courant, de l'évolution de la situation. Et On prend rendez-vous quand vous voulez, peut-être demain. Je suis à l'antenne aussi demain. Donc, s'il y a du nouveau d'ici cette intervention, votre intervention, n'hésitez pas à nous contacter. Et bon courage et bravo encore pour votre courage en tous les cas. On va marquer une pause dans Bininews. C'est la mi-temps de Bininews Weekend. On se retrouve dans quelques instants. On reparlera de l'Eurovision, de cette polémique, et on abordera l'aspect un petit peu plus politique avec les déclarations d'Émeric Caron. Voilà, il va vous faire réagir, j'en suis sûr. Allez, restez avec nous, c'est sur CNews que ça se passe, c'est nulle part ailleurs. À tout de suite. Il est 13h, bonjour, ou plutôt rebonjour, merci de nous accueillir, c'est BNews Weekend, partie 2, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, je vous présente l'équipe de grands témoins s'ils daignent rejoindre mon plateau, c'était la pause café pour eux, mais ils vont pas tarder à arriver. En attendant, je vous propose le sommaire de notre deuxième partie. À la une, on revient encore sur les grosses tensions cette année autour de l'Eurovision Suède et la participation d'Israël qui ne plaît pas à tout le monde. Certains demandent l'expulsion d'Israël carrément. Sa chanteuse Eden Golan s'est qualifiée pour la finale et ça, c'est quand même le plus important. On abordera l'aspect politique cette fois et ce qui se passe chez nous en France. Thomas Bonnet, notre spécialiste politique, nous a rejoint. On vous reparlera à nouveau de ce qui s'est passé hier soir dans un commissariat du 13e arrondissement. Deux policiers ont été grièvement blessés par un homme qui était en garde à vue. Beaucoup d'émotions chez les policiers, évidemment. Et puis on parlera aussi politique avec notre tout dernier baromètre OpinionWay pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche. Jordan Bardella gagne 2 points avec 31% d'intention de vote. Valérie Ayé perd 1 point à 16%. Et là aussi, expertise, analyse, décryptage de notre spécialiste Thomas Bonnet qui en va faire le déplacement pour rien en ce vendredi. Mais là, on va faire un tour de l'info total et complet avec Somaïa Labidi que je resalue.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, deux policiers grièvement blessés par balle dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris après avoir interpellé un homme pour des coups de cutter sur une femme. Les précisions sur place de notre journaliste Marine Sabourin.
Eh bien d'abord Thierry, vous dire que c'est le choc. Hein. Ici on a appris aux passants, puisqu'ils ont vu tous ces journalistes devant ce commissariat. Alors vous l'avez entendu dans le sujet qui précède ce duplex, eh bien il était 22h30 quand un individu a été interpellé au domicile d'une jeune femme qu'il était en train d'agresser au cutter. Il a été menotté et placé donc en garde à vue dans le commissariat qui se trouve juste derrière moi. Et donc c'est au moment peut-être, eh bien c'est une des hypothèses, c'est au moment où les policiers lui ont enlevé les menottes, eh bien que l'individu aurait pu subtiliser cette arme et alors aurait tiré sur ses policiers. L'un d'eux a un pronostic vital engagé, vous l'avez dit, pronostic vital engagé, il est toujours sous coma artificiel. Son pronostic vital engagé ce matin, évidemment ici les policiers sont sous le choc. Ce que l'on sait, eh bien c'est que l'agresseur est de type asiatique, il a une trentaine d'années d'ailleurs, tout comme les deux policiers qu'il a visés. Alors depuis ce matin, on a des syndicats de police qui sont mobilisés pour venir soutenir leurs collègues, le commissariat, qui a d'ailleurs rouvert ses portes ce matin.
Deux personnes interpellées après l'enlèvement et la séquestration d'un adolescent de 16 ans dimanche à Reims. Le procureur de la République est revenu sur les faits. Je vous propose de l'écouter lors de sa conférence de presse ce matin.
Il a expliqué qu'il entretenait une relation avec une jeune fille de son lycée, âgée comme lui de 16 ans. Et alors qu'il y avait mis fin sans difficulté, sans problème particulier, il avait reçu un message d'un ami qui lui demandait de venir le rejoindre près de son immeuble. Quand il est arrivé sur place, quatre hommes qui étaient dans une Renault Clio sont sortis, le conducteur restant au volant du véhicule, et l'ont forcé à rentrer dans la voiture. Il a été frappé tout le long, en tout cas d'après ses dires, tout le long du trajet, à tel point qu'il a perdu connaissance et que lorsqu'il s'est réveillé, il était au pied d'un immeuble sur le quartier Croix-Rouge.
Dans le reste de l'actualité, l'humanité retrouvée grâce à l'abolition de l'esclavage, les mots de Gabriel Attal en déplacement à La Rochelle, premier port français à se lancer dans la traite esclavagiste entre l'Afrique et les Amériques en 1594. Occasion pour le Premier ministre de réaffirmer l'importance de reconnaître l'histoire dans son entier.
Être citoyen, c'est connaître et reconnaître notre histoire dans son entier, sans occulter aucune page. C'est donc connaître et reconnaître la monstruosité de la traite, la réalité de l'esclavage, l'héroïsme des résistants et l'humanité retrouvée grâce à l'abolition. Alors nous avons renforcé les programmes scolaires, au collège comme au lycée. Et nous continuerons à renforcer la formation des professeurs, à soutenir les projets et les initiatives portées par tous les établissements scolaires. Mais chacun le sait ici, faire connaître cette mémoire, c'est aussi être à la hauteur de notre mission républicaine de lutte contre le racisme, de lutte contre toutes les discriminations.
Et puis l'actualité internationale marquée par Israël en finale de l'Eurovision, malgré les critiques et les huées contre sa candidate. La participation de l'État hébreu à la compétition suscite une vague de contestation à cause de la guerre à Gaza. Eden Golan, finaliste, est revenu sur cette soirée sous haute tension.
Je pense que nous sommes tous ici pour une seule raison. Et l'EBU prend toutes les précautions de sécurité pour que ce soit un lieu sûr et uni pour tout le monde. Donc je pense que tout le monde est en sécurité. Nous ici pour aucune autre raison.
Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à 13h, Thierry.
Merci, Somaïa. On vous retrouve dans 15 minutes, évidemment. Les Mini News Weekend, partie 2, c'est parti. Nous sommes avec nos grands témoins depuis une heure. Naïma M. Fadel, Joseph Tounel, Michel Thau, Mathieu Hoc, vous êtes toujours en forme.
Et toujours en pleine forme, bien sûr. Ouais.
Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Thomas Bonnet, spécialiste. Bonjour, Thierry. Politique CNews. Je vous ai regardé ce week-end.
Ah,
pas ce week-end. C'était parfait.
Venez merci, Thierry.
Allez, on commence notre deuxième heure encore par ce qui se passe autour de l'Eurovision. Somaïa vient de vous en parler, la présence de la chanteuse israélienne Eden Golan placée sous très haute surveillance. On l'a évoqué au cours de notre première heure. La présence d'Israël pose problème suite à ce qui se passe à Gaza, évidemment. On va aborder dans cette deuxième heure l'aspect un petit peu plus politique avec vous, mon cher Thomas, et quelques réactions, notamment celle d'Emeric Caron. Mais d'abord, explication du contexte avec Mickaël Dos Santos.
Un drapeau israélien piétiné, des chants et des slogans pro-palestiniens. À quelques kilomètres de la scène où les candidats de l'Eurovision s'affrontent, ces manifestants appellent au départ de la représentante israélienne.
J'aimerais qu'Israël soit disqualifié, comme les organisateurs l'ont fait avec la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine.
Invitée surprise de ce rassemblement, Greta Thunberg, la militante écologiste, a troqué son combat contre le réchauffement climatique pour le boycott d'Israël. La jeune Suédoise condamne les actions de l'État hébreu dans la bande de Gaza. Elle appelle les étudiants du monde entier à amplifier la mobilisation.
Je pense qu'ils devraient être partout. Une fois de plus, les jeunes montrent la voie, montrent au monde comment nous devons réagir face à la situation.
Non loin de là, autre manifestation, celle des pro-israéliens. Je pense que ce serait bien mieux si nous pouvions nous asseoir, parler, organiser des fêtes ensemble, bref, passer du temps en musique.
Je pense que l'Eurovision est une belle chose, que le concours ne doit pas être mêlé à la politique. Tout doit tourner autour de la musique.
Par crainte de débordement, la sécurité a été renforcée par les autorités suédoises.
Et oui, cette personne a raison. La chanson, ce n'est pas de la politique. Ça ne devrait pas être de la politique, cher Mathieu.
Non, effectivement, et ça pose la question. Et la question que je me pose, c'est que veulent ces gens, en fait, sur cette situation-là, Israël, Proche-Orient ? Parce que, en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils nous disent Israël ne respecte pas la vie humaine. Mais Israël est l'un des pays dans la région qui respecte plus la dignité humaine et qui est un pays qui a des valeurs qui sont similaires à la civilisation occidentale. Ils nous disent ensuite Israël ne respecte pas le droit international. Mais de nombreux pays ne respectent pas le droit international. Et surtout, est-ce qu'ils diraient la même chose de si, par exemple, d'autres pays se faisaient agresser de la même façon ? Est-ce que l'Iran pouvait dans leur logiciel, est-ce que l'Iran peut se défendre ? Est-ce que l'Égypte pourrait se défendre, etc. Donc, il y a une sorte d'inversion des valeurs sur cette question-là par rapport à l'État d'Israël. Ensuite, après, moi, ce qui me marque, c'est ensuite la question de l'antisionisme qui, justement, dégénère en antisémitisme. Quand on dit on est antisioniste, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que l'on est pour qu'il n'y ait plus de juifs en terre de Palestine, ce qui est l'antisionisme historique, on va dire, et notamment qui est dans une partie des opinions publiques dans les pays arabo-musulmans qui n'ont pas digéré les défaites de 49 et de 73, ou est-ce qu'on est antisioniste un peu à l'occidental, c'est-à-dire être contre l'État d'Israël? Et qu'est-ce que ça signifie être contre l'État d'Israël? Certains, les plus radicaux, nous diront « à mort Israël », et ça, c'est des slogans que l'on voit, et on voit le drapeau israélien piétiné lâchement par des personnalités, notamment des manifestants. Soit on est pour une solution plus soft, ça c'était la solution de Rima Hassan avant qu'elle rentre à la France insoumise, c'est-à-dire être pour un État binational entre Palestiniens et Israéliens, État binational qui effectivement ne peut pas voir le jour dans tous les cas à cause du Hamas.
Et on voit Greta Thunberg dans le sujet, on se demande ce qu'elle fait là en fait.
Eh bien si, c'est une très bonne démonstration de la réalité, c'est que certains qui nous disent on va protéger la planète, ou même on va sauver la planète, c'est un peu orgueilleux quand même, pensent pas du tout à la planète. C'est l'extrême gauche qui se mobilise. Greta Thunberg, c'est une espèce d'outil un peu fabriqué. D'ailleurs, elle répond jamais directement à une interview. Elle est toujours chaperonnée. Mm-hmm. Et si quelqu'un veut l'interroger et que ça n'a pas été prévu, hop, elle est exfiltrée. Donc cette jeune fille, elle est utilisée. On en a fait une icône. On a fabriqué une icône. Mm-hmm. Moi, j'ai honte pour nos politiques. Hein. Elle a été reçue à l'ONU. Elle a été reçue à l'Assemblée nationale en France. Elle a été reçue.
Faut pas l'oublier. Hein.
Et elle représente rien, si ce n'est un courant d'extrême gauche que l'on voit là. Et ces gens-là ne perçoivent pas deux minutes que si leurs alliés du Hamas, parce que c'est ça en fait ce qu'ils soutiennent aujourd'hui, puisqu'ils sont incapables de dire que le 7 octobre ça a été un massacre abominable. Donc ils soutiennent les terroristes du Hamas. Ils ne s'aperçoivent pas que le Hamas au pouvoir, mais ils y passent immédiatement. Mais là, on a vraiment le lien extrême gauche vert. Et on a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Regardez les élections sur des listes soi-disant écolo. Ce qui est sorti, oui, c'est du vert, mais ce n'est pas le vert écologiste.
Et vous faites la transition, puisque Thomas Bonnet est avec nous. LFI s'est manifesté par l'intermédiaire d'Émeric Caron.
Hein, notamment.
Évidemment. Ouais. Avec, on va découvrir un petit peu sa prise de position, parce que ça a des conséquences sur le sol français. Alors voilà, ce soit une sage décision d'exclure Israël du concours, où il y a une forme d'indécence aujourd'hui à voir la représentante d'Israël se mêler à une manifestation festive qui est une manifestation où on va chanter, danser. Ça, il a raison, on va chanter, danser. Oui. Sauf que là, il l'amène sur un terrain politique.
Non, mais en fait, tout est bon aujourd'hui pour la France insoumise d'aller sur ce thème unique, c'est-à-dire qu'on voit les préoccupations des Français, il y a le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, mais la France insoumise a décidé de faire campagne uniquement sur ce thème de la question palestinienne. Vous avez Mathilde Panot qui, lorsqu'on lui tend un micro, ne parlera que de cette question. Rima Hassan, qui a remplacé, d'une certaine manière, Manon Aubry à la tête de cette liste pour les Européennes. Donc, ils se servent du moindre prétexte, de la moindre occasion pour aller sur ce terrain, pour cliver. On l'a déjà dit, mais la stratégie de la France insoumise, c'est de créer le chaos, de créer du conflit, parce qu'ils veulent aller séduire un électorat qui n'a pas l'habitude de se mobiliser pour les élections européennes en particulier. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils sont dans l'outrance toujours plus.
Le seul point où je suis d'accord avec lui, c'est ça. Une manifestation, on va chanter et danser. On ne devrait parler que de ça.
Mais en plus, évidemment, quand on se souvient du 7 octobre, on rappelle quand même qu'un festival de musique a été visé par les terroristes du Hamas. Le parallèle, on peut aussi le dresser par rapport à ça. Donc c'est complètement indécent de tenir les propos.
C'est totalement à côté de la plaque, Michel.
Et pire que cela, parce que pour moi c'est vraiment très important, le Hamas est une organisation islamiste, terroriste et islamiste, qui considère que la musique et la danse sont interdits dans la plupart des manifestations publiques, qui enferme la femme sous son voile. Et d'ailleurs, à Gaza, contrairement à la Cisjordanie, vous avez beaucoup plus, un nombre très très considérable de femmes qui sont totalement voilées parce qu'on le leur impose. Et donc, lorsque je vois Émeric Caron dénoncer le fait qu'une Israélienne puisse aller danser, mais ça me fait doucement rire. Parce qu'en fait, à Gaza, et effectivement, il était juste de rappeler que, en fait, beaucoup des manifestants, peut-être pas tous, mais beaucoup, en fait, deviennent en fait des alliés objectifs du Hamas. Mais le Hamas, qui est substantiellement, ontologiquement contre l'idée de la danse et de la musique. Et ça, il faut le rappeler. C'est quand même très, très important. Deuxième point, je voudrais dire, c'est que les appels au boycott que l'on voit en Suède ne sont que le prolongement d'une stratégie d'appel au boycott d'Israël au niveau économique, à tous les niveaux. Rappelez-vous, dans les manifestations qui ont encore lieu, d'ailleurs, les occupations d'universités en France, il y a des appels à dénoncer les accords universitaires avec les meilleures universités israéliennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc il y a une stratégie dans l'antisionisme. Il y a non seulement la négation de l'État d'Israël pour beaucoup de personnes, mais il y a aussi une volonté de couper tous les liens avec un État démocratique, un État qui partage des valeurs communes avec nous, un État avec lequel on peut ne pas être d'accord sur certains choix des gouvernements, mais qui font partie d'une communauté d'ensemble dont nous faisons partie. Et donc, c'est cela aussi qui se joue actuellement dans ces stratégies de boycott.
Je voudrais, avant de vous donner la parole très rapidement, Naïma, comment les choses sont perçues en Israël? Écoutez ce que dit Julien Balloul, journaliste et ancien porte-parole de Tsahal.
Simplement électoraliste, on le sait, c'est pour obtenir des voix avant les élections européennes. Ils pensent que ça va les rendre populaires de taper sur Israël, de taper sur une participation israélienne. Ils pensent que, enfin, faut être sérieux. Les Français ont que ça à faire d'entendre parler d'Israël à l'Eurovision. Non, mais soyons sérieux. La vidéo de Mathilde Panot avec une musique triste derrière qui appelle à exclure Israël de l'Eurovision, c'est pourquoi. Ça, les préoccupations des Français, sérieusement. Sérieusement, est-ce que c'est passé hier soir encore avec deux policiers qui ont été attaqués? C'est ça la préoccupation du Français, c'est la candidate d'Israël à l'Eurovision. Soyons sérieux, c'est purement électoraliste.
On ne peut pas lui donner tort à Julien Balloul, Naïma.
Mais LFI, ils ne s'en cachent pas. Ils ont effectivement une stratégie électoraliste. Pour leur basse manœuvre, c'est d'utiliser en fait un public cible pour eux, c'est-à-dire les musulmans, sauf que les musulmans aujourd'hui ne sont pas dupes. Hein. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui prennent la parole pour dire on ne se laissera pas faire, il faut arrêter. Et on ne peut pas laisser LFI instrumentaliser ce qui se passe notamment à Gaza et ce conflit à des fins électoralistes et notamment de confronter les Français entre musulmans et juifs. C'est insupportable. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Et c'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Regardez, beaucoup ont dit, vous allez voir ce qui va se passer au niveau des quartiers. Est-ce qu'il y a eu des émeutes par rapport à Gaza dans les quartiers? Absolument rien. Est-ce qu'aujourd'hui, un juif, et j'aimerais vraiment le faire, et je suis prête à aller avec une personne dans un quartier, vous verrez, ils ne lui enlèveront pas la kippa. Moi, je viens de venir du Maroc. Les juifs marocains se promènent en kippa, personne n'est agressé, n'est rien. Et pourtant, il y a eu des manifestations, effectivement, par rapport à ce qui se passe à Gaza. Donc aujourd'hui, on ne se laissera pas faire. C'est une stratégie des LFI, c'est des faiseurs de haine. Et aujourd'hui, j'en appelle aux faiseurs de paix.
Il est 13h16, on fait un tour de l'information avec Somaya Labidi. Merci Naïma.
À la une de l'actualité, Israël multiplie les frappes dans la bande de Gaza alors que les pourparlers au Caire n'ont rien donné. De son côté, le Hamas estime, je cite, que la balle est entièrement dans le camp d'Israël quand l'Égypte exhorte les deux parties à faire preuve de flexibilité. Deux policiers grièvement blessés par balle après avoir interpellé un homme pour des coups de cutter sur une femme. L'individu a dérobé l'arme de service d'un des fonctionnaires et a ouvert le feu dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris hier soir peu avant 22h30. Et puis le Lampedusa de l'océan Indien, ce sont les mots de François-Xavier Bellamy pour qualifier la situation à Mayotte en déplacement sur l'archipel sur les thèmes de la santé et de l'immigration. La tête de liste LR aux élections européennes propose l'intervention systématique de Frontex pour faire face à la pression migratoire que subit le département français.
Merci Somaya. Thomas Bonnet est avec nous. Vous vouliez parler vous levez la main comme ça.
Je lève la main parce que
j'étais en train de lancer Thomas Bonnet et non, vous m'avez coupé dans mon élan.
Vous citez un grand philosophe qui s'appelle Émeric Caron. Qui déclarait le grand philosophe.
J'allais refermer le chapitre, mais vous voulez louer.
Mais oui, parce que.
Non, mais faites ce que vous voulez. Hein.
L'humain est l'animal le plus con de la planète. T'as beau lui expliquer les choses, il ne réagit pas. Et je me suis demandé si c'était pas une forme. C'est Émeric Caron que je cite.
Oui, c'est ça.
Je me suis demandé si c'était pas une forme d'autocritique.
Ah, bien.
Si vous citez Émeric Caron.
En citant ce grand philosophe qui s'appelle Émeric Caron, qui est député de la France machin.
D'accord. Alors ça, c'est fait. Caron, s'il souhaite répondre, évidemment, il peut répondre à tout moment, puisque vous lui avez adressé un petit message. On va parler des européennes avec un sondage, mon cher Thomas. Sondage Baromètre Opinionway pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche. On va le voir, ce résultat. On suit ça de très très près. Hein. Rassemblement national, qui gagne 2 points, c'est ça hein, oui. Qui creuse l'écart avec 31% des voix. C'est presque 2 fois plus que la liste Renaissance, qui, elle, perd encore 1 point pour arriver à 16%.
16, et on voit sur ce sondage que l'écart se réduit avec la troisième force politique de ces intentions de vote, qui est le Parti Socialiste, en tout cas la liste de Raphaël Glucksmann soutenue par le Parti Socialiste. Alors, ça vous aura pas échappé que hier, tout le gouvernement était à pied d'œuvre. Vous aviez à peu près une trentaine de ministres sur le terrain, dont le premier d'entre eux, Gabriel Attal, pour tenter de sauver le soldat ayé. On verra si cela a un effet dans les sondages, mais vu la popularité du gouvernement, on peut plutôt penser l'inverse. Et en fait, c'est un peu le souci, c'est que d'ailleurs, on sait que Gabriel Attal ne voulait pas vraiment s'impliquer dans ces élections européennes, parce
là, il est obligé d'y aller, là.
D'une certaine manière, il va aussi engager une forme un peu de sa responsabilité si le résultat venait à être mauvais. Donc on voit que ça devient très compliqué pour la majorité présidentielle, qui a aussi du mal à imposer ses thèmes dans la campagne. Du côté du Rassemblement National, on arrive à un score qui serait historique. Hein, 31%, c'est vraiment un très gros score pour le Rassemblement National. Il se trouve que j'étais avec Jordan Bardella cette semaine. Il se montre quand même relativement prudent sur les intentions de vote parce que il peut aussi avoir un effet de démobilisation à force de dire que le RN va être large vainqueur. La base électorale peut se dire que c'est pas utile d'aller voter le 9 juin prochain. Donc il tente quand même de rester prudent à ce niveau-là.
Et PS et les FI restent stables à 14%.
Oui, la stratégie de la France Insoumise est assez finalement inutile. Alors c'est quand même mieux, disons-le, qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ils ont fait un peu plus de 6%. Donc 7%, ils seraient dans une amélioration de leur score. Mais de toute manière, Jean-Luc Mélenchon s'en moque de ces élections européennes. Lui, ce qu'il vise, c'est l'élection présidentielle de 2027. Et donc, il est dans une stratégie de clivage politique, de conflictualité politique. Donc voilà, ces élections européennes n'ont pour lui...
la stratégie ne paye pas.
Non, mais la vocation de cette stratégie, c'est d'aller attirer des électeurs qui n'ont pas l'habitude de voter. Je vous rappelle qu'en 2022, s'il n'est pas allé au second tour, ça s'est joué à 400 000 voix.
Eh oui, exactement.
Et c'est pour ça qu'il a tissé.
Mais d'où la stratégie de mettre en avant Rima Hassan,
absolument,
qui, à mon avis, incarne ce tournant idéologique des insoumis, qui abandonne en fait la question sociale acquis au Rassemblement national. Le vote populaire aujourd'hui, le vote socialiste, il est chez Marine Le Pen et chez Bardella. Et donc, et LFI est dans une stratégie de communautarisation, de prise en otage des Français d'origine musulmane, d'origine africaine. C'est absolument scandaleux parce que c'est une racialisation qui est totalement étrangère à nos valeurs que joue actuellement LFI et qui commence à payer, malheureusement qui commence à payer parce que le taux de participation électorale, la participation au vote, aux élections dans les quartiers populaires commence à augmenter d'année en année parce que LFI a fait un travail de labourage du terrain, que ce soit dans les quartiers ou dans les réseaux sociaux, qui risquent, à mon avis, de payer à terme. Mais pour ce qui est des élections européennes du 9 juin, en fait, c'est le grand rendez-vous électoral du quinquennat Macron. Et je crains fort que ce soit un rendez-vous sanction, un rendez-vous qui cristallise toutes les colères. Et dernier point, quand même, qui est inscrit sur ce sondage, tout de même, il y a 15% des Français qui n'expriment pas encore d'intention de vote. 15%, c'est quand même beaucoup. Oui, ça peut faire basculer beaucoup de paramètres du vote, que ce soit pour la majorité présidentielle, que ce soit aussi pour des listes, on va dire, alternatives, qui pourraient effectivement aussi en profiter. Et donc, les cartes sont quand même encore largement ouvertes. Il reste un mois avant l'élection et ne considérons pas que tout est joué d'avance.
Exactement.
Il faut arriver à l'heure. C'est
absolument.
Ça. Oui, sert.
Moi, je nuancerai, et c'est vrai que cette élection européenne, ça va être très intéressant. Mais regardez, depuis deux mois, pratiquement, la stratégie de LFI, c'est à fond sur la Palestine, c'est à fond sur Gaza. Donc, et aujourd'hui, ça ne paye pas. Parce qu'ils ont augmenté quoi? De peut-être 0,50%. Voilà, c'est rien du tout, en fait. On aurait pu penser qu'il pourrait passer de 6 à 10, 11, 12. Alors que Guzman, par contre, lui, vous avez vu comment il augmente son taux. Le sondage le donne quand même aujourd'hui à 14-15%. Donc, c'est énorme. Donc, moi, je regrette, mais je pense que la stratégie des LFI ne fonctionne pas. Et que, justement, ça va être extrêmement intéressant pour nous. Parce que, quelque part, est-ce que... en lui donnant crédit à cette stratégie, est-ce qu'on ne fait pas aussi leur jeu? Et ce qui, moi en tout cas, me rend très satisfaite, c'est qu'en fait, les sondages ne donnent pas raison à cette stratégie.
Mathieu.
Oui, sur la stratégie LFI, je pense qu'ils se trompent sur un point qui est essentiel, c'est qu'en fait, ils ont oublié, effectivement, comme vous l'avez rappelé, ils ont entre 2017 et 2022, ils ont pris 300 000 voix de plus. Sur ces 300 000 voix, en fait, il y a les voix dans les quartiers, effectivement. Nous, on a travaillé sur cette question-là et ils sont allés chercher, grâce au discours indigéniste, etc., ils sont allés chercher ces voix-là. Et il y a aussi également le vote utile de la gauche. Et c'est pour ça, notamment de la gauche plus modérée, c'est ça qui a porté Mélenchon à plus de 20% à proximité du second tour. Or, aujourd'hui, ce vote-là, il est en train de le perdre au profit de la liste de Raphaël Glucksmann, puisque l'on voit que Raphaël Glucksmann capte au moins entre 30-35% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il faut qu'ils arrivent qu'ils repensent leur stratégie, parce que leur stratégie ne fonctionnera pas si vous agissez pas sur les deux leviers en même temps. Jean-Luc Mélenchon, enfin en tout cas la liste LFI, ne progressera pas. Ils vont rester cloisonnés à 6, 7, 8% maximum.
Et en plus, on voit aussi qu'une partie de l'électorat macroniste de gauche, on pourrait dire l'aile gauche du macronisme, est en train aussi de glisser lentement vers Raphaël Glucksmann. Il y a eu une sorte de virage d'autorité qui a été pris par le gouvernement, qui a peut-être aussi... convaincu certains d'aller plutôt vers Raphaël Glucksmann. Et en plus, la stratégie de la Macronie par rapport au candidat socialiste est assez ambiguë. Vous avez Valérie Ayer qui, au début de la campagne, dit il vote 90% des textes comme nous. Alors ça n'a pas été apprécié en interne, je vous le dis. Et hier, Bernard Guetta, quand même colistier de Mme Ayer, dit à peu près la même chose encore. Donc en fait, comment voulez-vous vous distinguer de votre principal rival quand vous dites que finalement, c'est un peu la même
chose. Vous êtes un spécialiste, la campagne a bien commencé pour Renaissance, parce qu'on a eu une succession de dirigeants qui disent non, la campagne n'a pas commencé. Là, elle a commencé.
Oui, là, ça y est. Le point de départ, c'était un peu le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, avec un effet très limité, sur la dynamique de campagne.
Bon, la campagne a bien commencé.
Thomas ouvre sur la perspective qui n'est pas neutre. C'est évidemment, on voit dans chaque pays, on s'intéresse aux listes nationales. Mais derrière, c'est quelle sera la majorité, quels seront les équilibres au sein du Parlement européen. Et ça peut faire basculer une politique européenne d'un côté ou de l'autre. Et c'est peut-être l'enjeu principal, avec un choix clair entre l'Europe des nations ou une Europe fédérale. Et ça, c'est un vrai sujet et on verra ce qui sortira des urnes au niveau européen.
Je pense qu'il y a plus grand monde qui défend une Europe fédérale, mais même Emmanuel Macron propose... Oui, mais... parce que son discours
si
entre
Michel
les deux...
Si Michel pense qu'Emmanuel Macron n'est pas grand-chose,
pour une raison, très simple, c'est que sur les aspects institutionnels, que ce soit au niveau national français qu'au niveau européen, je pense qu'il n'a jamais eu vraiment de vision. Mais bon, pour ce qui est de, à mon avis, l'essentiel, c'est que effectivement, vous avez beaucoup de listes qui jouent la carte purement nationale et qui font des européennes un enjeu de débat interne et de débat national, et d'où cette idée d'un vote sanction contre le pouvoir en place. Quant à ceux qui essayent justement de mettre l'enjeu des élections européennes sur les enjeux européens, ils ne sont pas très nombreux. Il y a une personne, effectivement, c'est Emmanuel Macron, parce que trois jours avant le 9 juin, il y aura le 6 juin, la commémoration des 80 ans du débarquement de Normandie. Il y a un aéropage de plus de 120 chefs d'État qui viennent du monde entier. Et je pense que le chef de l'État va certainement profiter de ce ultime moment avant la fin de la campagne pour essayer d'européaniser et de ramener l'enjeu aux questions de paix, de guerre. Et là, on pense à l'Ukraine.
Les amis, on va marquer une pause. Et vous savez quoi ? Parfois, la télévision fait bien les choses. On va retourner à Nice. Parce que Laura Bacca, m'assise dans la préparation de cette émission, me dit on va retourner à Nice, les choses ont bougé. Donc je vais découvrir en direct avec vous ce que vont nous annoncer Odile et Franck. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, restez bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. A tout de suite. Il est 13h30, c'est déjà la dernière ligne droite pour Midnews Weekend, puisque vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous propose de retrouver tout de suite Somaïa Labidi pour faire un tour de l'info complet. Somaïa.
L'humanité retrouvée grâce à l'abolition de l'esclavage, les mots de Gabriel Attal en déplacement à La Rochelle, premier port français à se lancer dans la traite esclavagiste entre l'Afrique et les Amériques en 1594. Occasion, cette journée, d'ériger une statue de Clarisse, femme qui vivait en servitude dans la ville avant le vote de la première abolition en 1794. 65 personnes touchées par l'épidémie de choléra à Mayotte, dont une enfant de 3 ans morte ce mercredi, annonce faite par le ministre chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, en déplacement dans l'archipel et qui précise que 3700 personnes ont été vaccinées. Et puis Israël multiplie les frappes dans la bande de Gaza alors que les pourparlers au Caire n'ont rien donné. De son côté, le Hamas estime, je cite, que la balle est entièrement dans le camp d'Israël quand l'Égypte exhorte les deux parties à faire preuve de flexibilité.
Merci Somaïa. Toujours avec moi, pour ma compagnie, Naïma Mfadel, Joseph Touvenel, Michel Taube et Mathieu Hoc. Les amis, on va voir parfois la télé réalise des choses. On va prendre à nouveau la direction de Nice parce qu'il semblerait que les choses aient bougé. Je rappelle le contexte, c'est ce couple, Odile Thomas et Franck Aspart, qui ont été victimes d'agressions puisque des jeunes squattaient donc l'escalier de leur immeuble. Les choses ont quelque peu dégénéré. Odile, Franck, vous êtes avec nous. Dites-nous ce qui s'est passé entre votre intervention sur notre antenne et là. Et ça s'est passé il y a très peu de temps. Racontez-nous tout.
Juste avant, nous savions donc que nous allions passer à votre antenne à 12h40. Et là-dessus, on a eu beaucoup de coups de téléphone par rapport aux trois spots qui sont passés dans la matinale. Et nous avons eu la chance d'avoir M. Ciotti au téléphone, qui nous a dit qu'il prenait le dossier en considération avec Monsieur le préfet. Et ils vont essayer d'aller au plus vite. Donc les choses semblent aller assez rapidement. Je fais une toute petite aparté parce que c'est quand même bien évidemment grâce à vous et à toute l'énergie de votre équipe et la collaboration de votre équipe que nous pouvons faire en sorte que notre quartier redevienne un quartier tel qu'il était avant, humain. Et une petite aparté, donc mon époux étant ténor d'opéra, le fait qu'il se soit fait frapper à la tempe gauche le pénalise beaucoup pour pouvoir chanter. Nous avions des concerts de prévus, on espère qu'on va pouvoir les faire parce que ça le pénalise beaucoup. Et bon, je ne me fais pas de soucis pour lui parce qu'il a une technique extraordinaire et qu'il a une voix incroyable.
Oui, parce que je ne l'ai pas dit, vous êtes quelqu'un de très connu dans la région de Nice, hein, Franck. Vous chantez beaucoup à l'opéra de Nice et pas qu'à Nice, me dit-on. Hein.
Bah, c'est-à-dire que j'ai fait une petite carrière internationale, donc j'ai représenté, je dirais, la culture française dans son excellence, c'est-à-dire l'opéra, pour ce qui me concerne. Et donc j'ai essayé de promouvoir, et j'essaye encore de promouvoir la culture en France et sur le bassin niçois, parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément d'artistes valeureux dans le coin qui ne sont pas utilisés. On va les chercher à l'autre bout de la planète pour dire de j'ai trouvé la perle rare au fin fond de la pampa, comme dirait, je sais plus les
trucs. Oui, Franck, effectivement, je comprends et c'est effectivement intéressant. C'est un autre sujet, mais vous avez raison de l'évoquer. Oui. Vous êtes soulagé, vous êtes content. L'épicerie risque de fermer. Qu'est-ce qui va se passer là, très concrètement?
Alors,
vous êtes soulagé là.
J'espère que, bon, ils ont déjà eu une fermeture, un coup de chaud il y a 2 ans. Et le deuxième coup de chaud, normalement, doit être définitif. Alors j'espère que M. Ciotti et M. Moutou, de concert, ont pris les choses bien en main et que la fermeture administrative de ce local sera définitive et que, du coup, on retrouvera la quiétude qui existe même maintenant quand ce magasin est fermé. Donc c'est clair d'être précis, quand ils sont là, c'est un bordel sans nom, et quand ils ne sont pas là, bah, on retrouve la population niçoise, les gens aimables, on retrouve de l'ordre et une civilisation, on va dire.
Là, vous voyez, sur Bordeaux, on met un couple agressé, veut déménager, a priori, si tout rentre dans l'ordre, vous restez dans votre appartement, quoi.
J'ai aucune raison de quitter la France, moi je suis gaulois, j'aime bien la France. Je me mettrai s'il faut toujours en avant pour pouvoir continuer à défendre cette merveilleuse nation.
Restez avec nous, réaction autour de ce plateau. Comme quoi, quand on médiatise les choses et quand on a le courage de dire haut et fort les choses comme Odile et Franck l'ont pu faire à visage découvert, c'est dingue.
Le premier mot, bougent. Thierry, c'est le courage. Moi,
ben oui, ils ont eu beaucoup de courage.
Oui, d'intervenir, c'est courageux. De se montrer à visage découvert et de dire les choses avec beaucoup d'humanité. Un des premiers termes qui a été dit pour retrouver la paix dans le quartier, c'était le terme d'humain.
Mmh. Et c'est l'alliance. Et de pas baisser les bras.
C'est avec l'alliance des deux. C'est le courage et garder son humanité en affirmant ce que nous sommes. Moi aussi, cher monsieur, je suis gaulois. J'aime l'ensemble de la terre entière, mais j'aime particulièrement mon pays. Merci à vous pour votre courage. Merci à vous, madame.
Bon, on voit qu'Eric Ciotti regarde notre chaîne, ou les équipes d'Eric Ciotti regardent notre chaîne, puisque la réaction était assez rapide, hein, puisque on a eu Odile et Franck aux alentours de 12h40. Il est, 13h36.
Mais bravo à cette mobilisation. Et c'est vrai que la lumière médiatique va peut-être aider à régler le problème. Après, restons prudents, parce que les politiques sont souvent présents le temps qu'il y a de la lumière médiatique. Et après,
on va suivre le dossier. Hein.
Parce que moi, on se souvient par exemple tous à Paris de ce qui se passe à la colline du Crac autour du quartier de Stalingrad, où pendant des mois et des mois, les médias, notamment CNews, étaient extrêmement présents. Mmh. Et 2 ans après, les choses n'ont malheureusement pas bougé parce que les médias ne peuvent pas être toujours présents. Donc restons vigilants. Et moi, je voulais dire, effectivement, comme vient de le dire Joseph, je veux saluer le courage de ce couple de Niçois. Je pense que de plus en plus de Français en ont ras-le-bol, des incivilités, des comportements qui ne sont pas poursuivis par la justice. Encore une fois, combien de personnes sont défavorablement connues des services de police et ne sont jamais jugées en justice. Et donc, effectivement, bravo à vous et merci pour votre exemple.
Naïma, rapidement, et on donne une dernière fois la parole à Odile et à Franck.
Moi, je pense qu'il faut être confiant parce que si le préfet s'en mêle, si je puis dire, il a des pouvoirs de police.
Le préfet
aussi. Et, le maire de Nice, je ne l'ai pas.
Ah, si.
Estrosi, monsieur Estrosi.
Estrosi. Ah, c'est Ciotti, pardon. Excusez-moi.
Ciotti n'est pas le maire de Nice.
Ciotti.
Donc, effectivement, le préfet s'en mêle et ça, c'est très bien parce qu'il a des pouvoirs de police. Il a aussi le pouvoir de faire fermer ce commerce. Et après, je voudrais aussi souligner que. Il parlait de l'âge de ces jeunes, c'est entre 10 et 14 ans. Donc, encore une fois, la place et le rôle des parents.
Odile, Franck, un dernier mot pour refermer le chapitre.
Moi, je voulais dire qu'on n'était pas courageux, on est normaux.
Oui, c'est vrai, madame.
Les gens sont courageux.
Mais si, vous avez fait preuve d'un beau courage dans tous les cas. Merci. Et on est très heureux si CNews a pu contribuer à la solution de votre problème. Mais tenez-nous au courant quand même. Hein. Comme l'a dit Michel Taube, attention, hein, quand la lumière est là, les politiques sont là. Parfois, ils sont moins présents.
Oui, et puis les politiques, c'est tous les politiques. C'est l'exécutif, c'est la mairie, c'est les députés, c'est peut-être le conseil départemental. Ben voilà, il faut que tous les services publics se mobilisent pour aider, pour tout simplement protéger nos concitoyens.
Merci Odile et Franck. Bon courage et nous sommes ravis d'avoir participé modestement.
Ah, trembler niveau.
Voilà, on va être modeste évidemment.
Efficacement.
Peut-être. Voilà. En tous les cas, on espère, on croise les doigts. Merci beaucoup à vous deux. On va changer de sujet. On va parler d'un sujet très concernant. Sachez-le, les élèves devront bientôt laisser leur téléphone portable à l'entrée des collèges. C'était un souhait de la ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle, Nicole Belloubet. Et c'est une expérimentation qui va être lancée à la rentrée scolaire de septembre prochain. On voit ça avec Pierre-François Altermat et Jules Lebedeau avec le récit de Pauline Trevzer.
Les téléphones portables seront-ils bientôt bannis des établissements scolaires? La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, envisage l'installation de casiers dédiés à ces appareils dès l'année prochaine.
Je trouve que c'est une bonne idée et que ça serait bien effectivement de les interdire parce qu'ils ont tendance à passer trop de temps sur les portables. Il y a les problèmes de harcèlement avec les réseaux sociaux.
Addictif pour les élèves, il est une source de distraction en classe, mais peut également s'avérer préjudiciable pour l'enseignant.
Les enseignants sont pris en photo ou filmés à leur insu, des images circulent sur les réseaux sociaux, TikTok et autres, justement avec parfois les enseignants pris pour cible.
L'utilisation des smartphones dans l'enceinte des écoles et collèges est déjà interdite par la loi depuis 2018, mais seul l'établissement décide de l'appliquer ou non. Une mesure déjà utilisée dans certains établissements privés.
Nous sommes avec Laurent Zamekowski, porte-parole de la Fédération PEP. Merci Laurent d'être avec nous. Je voulais savoir quelle est un peu votre réaction suite à cette expérimentation. Ça va dans le bon sens, oui, non, efficace, pas efficace. Vous en pensez quoi?
J'en pense qu'en 2017-2018, lorsque la loi a été mise en place, et que nous avons travaillé dessus avec le ministère, avec l'ancien ministre Jean-Michel Blanca, nous avions déjà demandé justement d'installer des casiers sécurisés de manière à ce que les élèves puissent laisser leur portable à entrer, puisqu'ils étaient interdits au sein de l'enceinte. On nous a répondu à l'époque, en termes de logistique, lorsque vous avez des centaines d'élèves qui arrivent le matin en même temps, de pouvoir accéder à ces casiers, c'est déjà très compliqué. Puis en plus de ça, c'est un coût significatif, puisque vous savez qu'actuellement, les casiers des élèves, pour la plupart, ne ferment pas. Ou certains n'en ont carrément pas. Donc effectivement, on se demande ce qui s'est passé entre 2018 et aujourd'hui, où tout d'un coup, quelque chose qu'on avait demandé devient aujourd'hui tout à fait possible. Donc on est très surpris et on s'en félicite, mais on a quand même de gros doutes.
Il faut du temps en fait pour faire les choses, voilà. C'est ça.
Je crois que la rentrée le matin, quand effectivement on nous dit qu'il y a plusieurs centaines d'élèves qui arrivent en même temps, ça ne va pas changer. Donc c'est un argument qui nous avait semblé recevable. Après, on espère aussi effectivement qu'il y aura des investissements, parce que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, nos enfants n'arrivent déjà pas à laisser leurs affaires, ne serait-ce que leurs livres, dans les casiers. Ils sont obligés de les trimballer avec eux la plupart du temps. On a quand même de gros doutes sur le fonctionnement de tout cela et on s'interroge aussi sur la communication au sein du ministère.
Restez avec nous, Laurent. J'ouvre le débat avec mes grands témoins. Naïma, c'est un sujet qui vous intéresse.
Oui, très. Je trouve ça très, très bien. Alors, c'est dommage que ça ait été pensé en 2017 et que ça
vient 2024.
Qu'aujourd'hui, pour des questions en fait, de logistique ou bien de coûts, je pense que c'est tellement, tellement important pour nos enfants qu'ils soient concentrés sur leur scolarité. Et notamment, ça évitera aussi tout cet harcèlement qui a lieu avec les téléphones portables. Et ça permettra aussi les interactions dans la cour de récréation entre élèves, parce qu'il n'y a pas pire que de voir des gamins qui sont sur leur téléphone au lieu d'être avec leurs camarades. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils vont trouver une solution. Ça peut être aussi les casiers dans le bureau de la CPE, des choses comme ça, qui peuvent être mis par casier, par...
Il faut qu'elle ait un grand bureau, la CPE. Si je puis me permettre.
Non, mais en tout cas, je pense que la solution va être trouvée. Oui. Pas s'arrêter au
diplôme. Ils vont être contents de la CPE, Naïma. Ils vont être très contents. Michel Thaume.
Non, mais combien d'années perdues?
Ben oui.
Combien d'années perdues? Entre 2017 et 2024, il y a combien d'années? Il y a 7 ans. Donc, ce sont des enfants qui ont passé de l'âge de 5 ans à 12 ans, de 8 ans à 15 ans. Et donc, ces enfants ont vécu dans les collèges, dans les cours d'école, de collège, avec des téléphones portables auxquels ils n'auraient pas dû avoir accès. Et puis, il y a une deuxième chose, l'expérimentation. Gabriel Attal, qui est très bon dans le discours, il a un discours d'autorité, mais à chaque fois qu'il prend une mesure importante, il va dire on va faire une expérimentation. Prenez l'uniforme scolaire.
Oui, c'est vrai, j'allais vous en parler justement.
On en est à combien d'établissements scolaires qui expérimentent l'uniforme? J'aimerais bien le savoir, et j'aimerais bien savoir quand est-ce que tous les établissements scolaires
ce qui me fait sourire, Michel, l'uniforme. C'est que la Martinique, la Guadeloupe, c'est bien en France, on est d'accord.
Oui, mais justement,
pourquoi, c'est déjà le cas.
Mais je l'avais
pourquoi une expérimentation?
Mais pourquoi n'a-t-il pas tout de suite annoncé la généralisation, puisque ce qui se passe dans les Outre-mer fonctionne? Donc les expérimentations, c'est toujours une manière de gagner, c'est-à-dire de perdre un ou deux ans, et c'est malheureusement terrible et fort dommageable.
Mathieu.
Oui, il n'y a plus le temps pour les expérimentations aujourd'hui, on le voit. Et effectivement, il y aura une proposition de loi qui sera portée au Sénat sur cette question-là, justement d'interdire directement les smartphones au sein des collèges, parce que le temps n'est plus le temps de l'expérimentation. Il y a eu une expérimentation en Espagne déjà qui a déjà donné des résultats qui étaient concluants. L'UNESCO déjà appelle encourage les pays et les gouvernements à prendre ce type de mesures. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est l'attention des élèves, effectivement. Les élèves, aujourd'hui, lisent 19 minutes par jour, selon une enquête en 2023, contre eux, ils passent environ plus de 3 heures sur leur téléphone portable. Et ils passent du temps aussi sur leur téléphone en cours et en salle de classe. Donc, le niveau, ensuite, on se plaint après du niveau qui baisse des élèves, mais ça en fait partie. Ce n'est pas la seule donnée, mais ça en fait partie. Le deuxième élément, aussi, vous l'avez dit, c'est le cyberharcèlement. Il y a 54% des enseignants qui s'auto-censurent sur un certain nombre de sujets. Pourquoi ? Parce que vous avez dans certaines classes, notamment dans certains territoires, des disciplines qui ne peuvent plus être enseignées de la meilleure des manières. L'histoire, par exemple, l'histoire-géographie, les sciences, etc. Parce que vous avez des enfants qui filment ou la laïcité, par exemple, la laïcité, qui filment leur prof, qui mettent ça sur les réseaux sociaux, et après les enseignants prennent un déchaînement et un tollé infernal sur les réseaux sociaux. Il faut cesser tout cela, et effectivement, le temps n'est plus à l'expérimentation face à ce type de contexte aujourd'hui en France.
Joseph.
C'est une très bonne mesure. D'abord, ça rappelle qu'un téléphone, c'est un outil, et un outil, c'est la façon dont on s'en sert. Ça peut être positif ou négatif, et en aucun cas, ça doit devenir une laisse électronique. On n'arrive plus à se décrocher de la laisse. Là, ça permet de montrer que la laisse, on peut s'en décrocher. Et puis, j'aurais quand même, féliciter la rapidité des autorités, puisque ça fait que 2555 jours que le problème a été évoqué. Et donc, 2555 jours après, je trouve que le ministère, pour une fois, est très réactif.
Ben oui, sur le couple de 10, c'est efficace. Vous passez sur CNews, le problème est résolu tout de suite. Je dis ça, je dis rien. Laurence Amekowski, vous allez suivre avec attention cette expérimentation qui fait sourire mes grands témoins.
L'expérimentation, malheureusement, actuellement, elle est impossible. Dans la réalité, vous savez que le téléphone donc est déjà interdit au collège.
Ah oui.
Si des élèves aujourd'hui sont en capacité d'utiliser leur téléphone dans le collège, c'est justement parce qu'il n'y a pas assez de surveillants. Et aujourd'hui, donc, si vous n'avez pas assez de surveillants pour vérifier que les élèves mettent leur téléphone dans le casier, de toute façon, ça ne servira à rien.
Un
assistant d'éducation pour 120 élèves au collège, ce n'est pas suffisant.
Oui, mais Michel Thaume, une question à vous poser, Laurent.
Une question quand même un peu naïve, et je salue les valeurs de la PEP. Mais enfin, c'est pas possible pour des surveillants de saisir un téléphone qu'ils voient dans la cour en disant, je te le rendrai à la fin de la journée. Et si c'était devenu une habitude,
Parce que c'est ça le problème. Non,
mais vous imaginez dans un collège ou dans un lycée de 2000 personnes.
Mais parce que depuis des années, je suis d'accord, mais depuis des années, on s'est habitué à un laxisme, à un laisser-faire. Ce qui fait qu'on n'a plus l'habitude de dire tout simplement à un enfant qui effectivement contrevient à une règle, eh ben tu vas devoir la respecter. Donc je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est toute une culture dont les enseignants se sont, j'ai envie de dire, en grande partie délaissés, et sur lequel il est difficile de revenir et pour faire appliquer les règles votées par le Parlement.
Naïma.
Non, mais je m'interroge, parce que on a toujours un peu cette réaction de dire « Ah, c'est pas possible, mais moi je regrette ». Mais à l'entrée de chaque élève, chaque élève peut déposer son portable, ça peut être par casier, par classe, par exemple, la 5e E ou la 5e D, et vous les posez dans une petite pochette avec le nom de l'élève. Je pense que ce n'est pas infaisable.
Laurent Zamekowski, merci en tous les cas. J'ai l'impression que c'est un coup de com', hein, visiblement, quand on vous entend, et que ça ne va pas être facile, mais on va suivre le dossier. N'hésitez pas, vous aussi, à nous contacter. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole Fédération PEP et qu'on a toujours beaucoup de plaisir à vous avoir sur notre antenne. Il est 13h48. Oh, je suis très en retard. Sommeil à la Bini, on fait un tour de l'info.
On l'a appris il y a quelques minutes. Le juge Renaud Van Ruymbeke, qui a incarné la lutte contre la grande délinquance financière, s'est éteint à l'âge de 71 ans. La France perd un grand magistrat et la justice un immense serviteur, a déclaré Éric Dupond-Moretti sur X. Bonne nouvelle pour les automobilistes franciliens. Le tronçon de la 13 entre Vaucresson et Paris, fermé depuis le 19 avril à cause de la découverte de fissures, va partiellement rouvrir, mais sur une voie et uniquement pour les véhicules légers dans le sens province-Paris dès cet après-midi. Et puis ces images impressionnantes du Brésil. Un cheval piégé sur le toit d'une maison à cause des inondations a été sauvé par les secouristes. Baptisé Caramelo par les habitants, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux.
Merci Somaya, merci de nous avoir accompagnés. Voilà, c'est la fin de MiniNews Weekend. Merci à vous, mes contemporains du jour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci également à l'équipe qui m'a entouré ce vendredi. Laura Baca, Habiba Mguizou, David Brunet, Naomi Benhamou, Somaya Labidi, évidemment. Merci à la programmation, Nicolas Nissim, Louis Lallemand et Victoria Chétrit qui a fait un travail formidable sur le couple de Nice, évidemment. Merci aux équipes en régie, Thibaut Palfroy, la réalisation au son, Zaven Hamel, et vidéo le célèbre Rémi. Vous pouvez revivre évidemment notre émission sur le site cnews.fr. Dans quelques instants, 180 minutes info présenté par l'excellent Florian Tardif. Moi, je vous retrouve demain à 12h. Vous connaissez ce nouveau rendez-vous, une heure d'information décryptée par deux grands témoins. Ça va vite, c'est efficace. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait très, très plaisir. Et on va se quitter en chanson, si vous voulez bien. Parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé d'Eden Golan et de sa très belle prestation et de sa très belle chanson. Mais Cocorico, il y a Slimane qui va nous représenter demain soir. Et on écoute Slimane. Bye bye et à bientôt, parce que l'important, c'est la musique aussi. Belle journée sur CNews.
Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma...